R22, tout le monde. Bah, merci déjà d'être venu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, entre la Cannes, entre un défilé au Blône, entre, je sais pas, il y a aussi, voilà, j'oubliais aussi, bah, évidemment, il y a la manifestation qui est organisée en soutien à la Palestine. Donc, de toute façon, on va commencer comme ça. Et puis, s'il y a des personnes qui nous rejoignent petit à petit, bah, on va essayer de faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus. Il me semblait assez important d'introduire cette première assemblée des quartiers populaires avec une contextualisation pour un peu vous expliquer où vous avez mis les pieds avant et que vous décidiez de partir aussi. Hein, et c'est un contrat tacite fait entre vous et nous. Et du coup, à partir de là, évidemment, présenter les personnes qui ont gentiment accepté de venir discuter avec nous. Et puis aussi, bah, voilà, vous présenter les ateliers qui auront lieu en parallèle et aussi tout l'état d'esprit ces assemblées des quartiers populaires. Donc, c'est un peu solennel, hein. Et je vous avoue, je l'ai écrit aussi avec beaucoup de moi. Cette première rencontre marque le début de la création des futures assemblées des quartiers populaires à Rennes. Elle est née de la volonté de faire converger deux initiatives qui, au tout début, étaient distinctes. Des formations à ateliers d'émancipation en faveur des habitants habitantes des quartiers populaires, mises en place par la Maison des Diasporas que je coordonne, ainsi qu'une première agora des quartiers populaires est née, inscrite dans le parcours des dingueries de la terre et portée par le Front de Mer et les Cris d'Ève. Les deux se répondant plutôt bien et donnant un souffle bien particulier à l'adage « don't agonize, organize », on a décidé de mêler la théorie à travers les principes de l'éducation politique, populaire et antiraciste, ainsi que la pratique à travers des ateliers qui forment et donnent des solutions concrètes à nos communautés. Donc l'Assemblée des quartiers populaires est un espace, se veut un espace, où les citoyens et citoyennes, habitantes des quartiers, aspirent à partager leurs convictions et idées régulièrement, pas seulement en vue d'échéances politiques. Et nous comptons bien sûr nous réunir avant, pendant, après les élections municipales qui se tiendront à Rennes en mars 2026, et aussi avant, pendant et après les élections présidentielles qui auront lieu un an plus tard, en 2027. Dans le contexte politique que nous connaissons, nous sommes nous, précaires, minorisés, femmes, hommes racisés, personnes trans, LGBT, QIA+, immigrés, marginaux, personnes isolées, les principales victimes des dommages collatéraux d'une société en proie au racisme, à l'islamophobie, à la haine de la différence, à un bouleversement écologique et à l'effondrement d'un système total qu'est le capitalisme, tout simplement. Les agora populaires sont des espaces où, en tant que citoyens, citoyennes et habitants avec ou sans papier, avec ou sans diplôme, nous pouvons œuvrer pour le bien et la défense de nos intérêts, car nous en avons. Où nous devons demander aux personnes qui souhaiteraient nous représenter de prendre des engagements, de les signer et de nous rendre des comptes. L'ambition est là, certes utopique, mais pas impossible. Il est temps que nos quartiers deviennent des passages incontournables au niveau local et au niveau national, mais en tout cas déjà localement ça peut le faire. Des lieux où se dessine le futur de la France et surtout où nous formons nos futurs représentants pour porter nos voix au sein des listes électorales, sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais aussi au sein d'autres assemblées de quartiers qui se tiennent dans d'autres villes en France. En tant que laboratoire artistique, d'expérimentation artistique et sociale des minorisés, la MDD met en place en parallèle de cette rencontre CASH. Pourquoi ? Parce que ce sont des ateliers et formations pour acquérir des outils de libération concrets. Quand nous savons à quel point la précarité au sein de nos quartiers est la principale cause de la violence, du néotrafic, du narcotrafic, de l'échec scolaire, des discriminations, des violences intraconjugales, des dépressions et troubles mentaux et d'un cercle vicieux menant lui-même à la précarité. Il est important de prendre le taureau par les cornes. Nous proposons donc, en parallèle de cette assemblée, aux femmes et enfants de rejoindre cette formation auprès de Sylvie et de Nadège, qui sont venus spécialement d'Île-de-France pour vous. En voiture ce matin. Sylvie et Nadège, je vais vous laisser vous présenter rapidement parce que je trouve que votre démarche, elle est assez particulière pour qu'on s'y arrête. Et après, je reprendrai le micro, mais c'est pour vous faire honneur. Sachez qu'il y a eu un orage aujourd'hui et que les trains étaient annulés. Et que ce matin, elles m'ont appelé, elles m'ont dit qu'elles prenaient la voiture pour venir. Donc, malgré... voilà.
On s'était engagés.
Ouais, voilà. Bah oui, mais bon, faut savoir que l'engagement, c'est des choses que certains ne tiennent pas, et on va en parler. Merci beaucoup, je vous laisse vous présenter.
Okay. Alors, bonjour à tous, je suis Sylvie, et je suis praticienne en neurosciences appliquée à la vie quotidienne. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour déconstruire, reconstruire, c'est mon travail au quotidien. Et voilà, j'interviens pour vous ouvrir les yeux, essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses qui sont importantes. Et voilà, pourquoi pas commencer une nouvelle aventure.
Alors, bonjour à tous. Nadège, praticienne en écriture thérapeutique. J'accompagne les femmes et les enfants à transformer les mots, M-A-U-X, à travers la conscience des mots, M-O-T-S. Alors, je ne travaille pas sur une thématique particulière. On aborde les violences sexuelles, le racisme, les drogues et autres. Je travaille en binôme toujours avec Sylvie. Et c'est un plaisir pour nous d'être là. Et voilà.
Merci beaucoup. Bravo. Du coup, juste après cette introduction, bien sûr, j'inviterai celles qui le souhaiteraient et les enfants qui le souhaitent à rejoindre ces ateliers, à savoir que les ateliers de Sylvie pour les femmes se tiennent au troisième étage. De toute façon, on vous accompagnera. Et celles pour les enfants se tiennent juste à côté, dans le hall. Du coup, pour revenir aux assemblées populaires, il faut savoir que porter un tel projet... ça implique la mise en place d'une coalition réelle et d'une force politique locale agissant depuis et pour les quartiers populaires. Donc c'est une dynamique locale de cette nature qui pourra ne se développer que sur le long terme et on en est conscient. Là, je suis assez heureuse que ça commence, on va dire, de manière assez humble pour que ça grossisse. C'est à nous de faire grossir ça. Donc, nous partons de nos identités et on propose un espace d'apprentissage commun fondé sur le respect et la bienveillance. L'Assemblée des quartiers populaires sera également un endroit pour aborder des sujets négligés, donc les angles morts. C'est aussi une agora qui nécessite une transparence et la mise en partage effectif des réussites, mais aussi des problèmes que nous rencontrons. Nous revendiquons et valorisons une approche pédagogique et antiraciste visant à promouvoir le bien commun au-delà et au sein de nos quartiers, en cherchant notre émancipation et en mettant en place des mesures qui respectent notre dignité. Nous souhaitons imaginer des futurs désirables pour nos générations et celles à venir, car nous sommes légitimes, et je vous le redis, nous sommes légitimes d'apporter à la France des solutions issues de nos expériences et de nos connaissances, parce qu'on a vécu et on sait. En tant qu'habitantes de quartiers, de personnes racisées, minorisées ou en situation de précarité, nous savons. L'enjeu consiste donc à établir des liens entre les quartiers populaires, associations, collectifs et la gauche, qu'elle soit institutionnelle ou non. Mais je vous le rappelle, l'Assemblée des quartiers populaires n'a pas vocation d'être un meeting politique. On les connaît. Il s'agit de susciter un débat et une réflexion des participants qui, elle, soit représentant, représentante d'un parti, d'une organisation, d'un collectif ou des habitantes. Les prises de parole du public se font en deux temps. Un premier temps de 30 minutes issu à l'issue de la première table ronde, donc c'est votre droit de réponse, évidemment. Et un second temps autour d'un cas pratique, parce qu'on cherche vraiment à ce que, petit à petit, vous puissiez même me remplacer. Et ça serait bien. Qui cette fois-ci tourne autour des amendes forfaitaires délictuelles. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent le co-animer avec la journaliste qui le prépare. et ainsi se former, acquérir des outils rhétoriques tout en restant eux-mêmes. Je pense que c'est bien. L'atelier va démarrer à 16h. Donc voilà, et celles et ceux qui seront intéressés pourront rejoindre le troisième étage. Moi, j'ai fini ma présentation et ma contextualisation. Priscilla, je te laisse te présenter toi aussi et nous présenter en tant que déléguée nationale du Front de Mer. Qu'est-ce qu'au juste l'Assemblée des quartiers populaires ? Parce qu'évidemment, c'est une initiative qui n'est pas née à Rennes et que nous avons décidé d'inscrire ici. Vas-y.
Bravo ! Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Priscilla Damor, je suis déléguée nationale du Front de Mer France. Mon collègue du Front de Mer aura l'occasion de présenter notre syndicat, mais là, en l'occurrence Steve, qui va rejoindre à côté, après. mais là, je voulais partager avec vous quand même quelques éléments de contexte sur l'Assemblée nationale des quartiers populaires qui existe officiellement depuis le 27 avril 2024. Qui a fait l'objet d'un grand rassemblement à la Bourse de Paris. Et donc, c'est, comme l'a très justement dit aussi Lauriane, une coalition de plusieurs organisations historiques des quartiers, donc notamment le MIB, le Mouvement Immigration Banlieue. Il y a aussi le Comité Adama. Il y a également Tactique Collectif à Toulouse. Et voilà, tout un tas d'autres organisations qui se sont donc mobilisées pour créer un rapport de force et aussi un projet politique. Et quelques éléments quand même particuliers. Youssef Brakni, que vous connaissez peut-être, qui est un militant du comité Adama et qui est effectivement dans l'Assemblée nationale des quartiers, disait qu'ils avaient mis beaucoup de temps à créer cette dynamique, à peu près 2 ans. Et je vais le citer, c'est le temps qu'il a fallu pour accepter que nous n'étions pas tous d'accord, que nous ne le serons jamais sur certains sujets, que nos priorités ne sont pas pour tous les mêmes, mais que nous sommes conscients que si nous voulons peser pour nous, les habitants des quartiers populaires, il faut nous rassembler. Et les objectifs, ils sont assez clairs. C'est s'auto-organiser, c'est se fédérer, c'est se former aussi et former les nouvelles générations des quartiers populaires au combat politique pour imposer et pour peser aussi dans le débat public. Exister collectivement et s'engager politiquement, c'est un peu leur slogan. Et comme le disait Almani Kamouté, qui est aussi un militant très engagé dans ce collectif-là, dans ce mouvement politique-là, il insiste toujours en disant « on ne demande pas l'autorisation, on ne demande l'autorisation à personne ». À la fois pour reprendre en main le narratif de nos quartiers, face aux discours fascisants, face aux discours sécuritaires aussi, et à droite et à l'extrême droite, et face aussi aux discours méfiants à gauche, qui nous demandent trop souvent de montrer patte blanche et de nous expliquer sur le fait qu'on s'auto-organise. Et puis, il y a un troisième élément aussi qui fait tension, on ne peut pas ne pas l'aborder, c'est le narcotrafic. Donc, il faut naviguer dans tous ces espaces pour essayer de défendre au maximum le droit des nouvelles générations, de nos enfants et de nous-mêmes. L'autre élément aussi qui est important pour présenter l'Assemblée des quartiers, c'est qu'il revendique aussi le fait que nous ne sommes ni une réserve de voix, ni des colleuses et des colleurs d'affiches, et que nous avons une expertise pour élaborer ensemble des mesures fortes, mais que c'est terminé le fait d'être invisibilisé, d'être instrumentalisé et de faire de la décoration raciale dans les listes, et que nous voulons les porter nous-mêmes, mais pas séparément, mais ensemble, les porter nous-mêmes dans les espaces de pouvoir, avec aussi ce mantra qui est le nôtre au sein du Front de Mer et qui est aussi important au sein de l'Assemblée des quartiers, puisque le Front de Mer France siège dans la gouvernance de l'Assemblée des quartiers. C'est un pied dans le quartier et un pied dans l'institution. Donc, il faudra compter sur nous pour être là en tant que partie prenante aux prochaines élections, toutes les élections. Et donc, on vous lance une bouteille à la mer pour continuer cette aventure aujourd'hui dans d'autres quartiers populaires, avec d'autres organisations. Donc, on invite tout le monde à s'approprier ce dispositif qu'est l'Assemblée des quartiers populaires, parce qu'il ne nous appartient pas. C'est un bien commun. Voilà.
Du coup, pour cette première assemblée, on a choisi de mettre les pieds dans le plat. Bon, en déplaise à certains, je pense que on a décidé de parler de la relation et des liens qu'entretenaient les quartiers populaires et la gauche française. L'objectif de cette rencontre est de dresser un état des lieux des relations réelles entre la gauche française et les quartiers populaires. Nous aborderons chaque problématique en encourageant les intervenants, à faire preuve d'autocritique et à adopter un regard rétrospectif sur la manière dont la gauche française a géré ses enjeux au niveau local. Voilà. Et avant tout, je pense que c'est le moment de vous présenter, parce que vous ne faites pas la déco non plus. Je vous remercie énormément d'être venu ici. J'espère que vous ne voulez pas parler, vous voulez pas partir. Ça va ? Vous vous sentez bien ? Ça va bien ? Ouais, ok. Pas de pression. Donc, Gaëlle, toi, tu es coprésidente, au même titre que Priscilla, de l'association Confluence, une association écologiste portée par Europe Écologie des Verts, l'Union démocratique bretonne, Nouvelle Donne et des citoyens non encartés, comme on dit. Votre association a été refondée, je ne sais pas si c'est cette année, mais en tout cas cette année, vous avez votre première réunion, en vue des élections municipales 2026. Et il faut dire que tu es également deuxième adjointe déléguée à l'éducation pour la ville de Rennes. Donc, bonjour. Marjolaine, toi, tu es coprésidente de Rennes Commune et non membre, juste coprésidente, c'est important de le rappeler, qui est une association qui se présente comme un espace politique citoyen de gauche, de formation politique et de mobilisation à l'échelle locale, je reprends vos termes, et tu es aussi la fondatrice et la coordinatrice de l'association Langophonie. Merci d'être là. Vous pourrez rajouter, évidemment, des choses pour vous présenter, sinon c'est...
Je ne suis plus coordinatrice.
C'est vrai ? Administratrice. De Langophonie ?
Ouais, ouais.
Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Non. Juste administrative. Voilà, exactement. Il faut bien remettre. C'est vrai ? Merci beaucoup. Myriam, toi, tu es une habitante très impliquée dans la vie associative de ton quartier, Kelblon, et notamment par le biais d'un collectif d'habitants, Rennes Sud Mobilisé, et qui se réunit régulièrement pour discuter de l'actualité et agir localement. Ça te va comme présentation ? C'est bien. Et Steve, toi, tu es salarié et membre du Front de Mer, qui est un syndicat de parents, habitant de quartiers populaires, mais aussi de citoyens et citoyennes se sentant concernés par ces questions. Votre mission est de lutter pour le droit des parents et des enfants, mais aussi la lutte contre les discriminations.
C'est ce qu'il y a sur les flyers,
ouais. Ouais, c'est ce qu'il y a. Mais généralement, j'ai préféré reprendre ce que vous dites de vous, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Je vais essayer de vite faire rappeler le contexte dans lequel on est, parce qu'il est très, très particulier. Et c'est ce contexte lui-même qui fait qu'on est à la fois entre un projet expérimental, mais aussi entre un projet très, très politique. C'est les municipales. Et c'est aussi pour ça que notre présence ici pourrait poser problème. Voilà. Il s'agit d'un rappel qui a toute son importance ici. Nous sommes à 10 mois des élections municipales et à 20 mois des élections présidentielles qui impacteront directement notre quotidien à tous et à toutes. Replacer l'Assemblée des quartiers populaires à l'échelle locale n'a pas vocation à ce qu'en diraient nos détracteurs, à jouer la carte de la campagne politique. Il s'agit premièrement à faire un état des lieux avec les invités en nombre limité pour que chacun ait un espace de parole suffisant, mais aussi de déjouer le risque de la récupération et de la mise en scène quand il s'agit ici d'entamer un travail sur le long terme, un travail collectif qui a pour toute sa valeur, qui pour avoir toute sa valeur, doit respecter sa cohérence et aussi son temps. Donc, vous comprendrez évidemment qu'en tant que premier événement, c'est qu'une lancée. Et malheureusement, on n'a pas pu inviter tout le monde pour que tout le monde puisse parler. Et puis, on n'a pas voulu inviter tout le monde pour que tout le monde puisse parler. Voilà, c'est comme ça. Mais pour que tout le monde puisse réellement parler, si on se comprend bien. Donc, j'ai ma première question. Vous allez être assez surpris. Elle est pour vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui se sent d'y répondre dans l'Assemblée, je voudrais qu'elle se sente libre. Il s'agit de la question tournant autour... Donc, le sujet, c'est le meeting politique. Et j'aimerais bien qu'une personne du public nous donne une expérience qu'elle a eue d'un rassemblement où il y a eu des politiques où elle s'est sentie en plein meeting et... Voilà, un peu nous dire ce qu'elle a pu en ressentir, parce que justement, j'ai pas ce qu'on essaye, c'est vraiment de faire comprendre à nos détracteurs, détracteuses, ou les gens que ça gênerait, que c'est pas une démarche qui est choisie avec moi et mon nombril, mais c'est que ça fait appel à une des expériences, en fait, que vous vivez aussi. Et je trouve ça très bien s'il y a une personne qui voudrait partager son point de vue sur les réunions politiques classiques, quoi. Effet meeting. Allez, lancez-vous, SVP. Il suffit d'une personne. Nos pressions. Ah, merci beaucoup, tu gères. Je sais pas. Il est loin. Mais je te demanderai. Tu peux parler fort, mais est-ce que tu peux... Bah, je pense que tu peux te déplacer vite fait. Allez, viens.
Et on l'applaudit.
Bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Abdel. Voilà.
Bonjour.
Et du coup, moi, c'était une expérience. Donc, c'était un meeting de Jean-Luc Mélenchon, auquel j'ai eu l'honneur d'assister. Du coup, on était arrivés et quand ils ont vu qu'on était des jeunes, ils nous ont mis directement en fait au premier rang pour que ça fasse l'image. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est ouais. Ça ? Bah, c'était bien. C'était pas la bonne réponse. Ok. C'était très chouette. Il y a eu 2-3 trucs auxquels j'étais pas d'accord, mais.
Toi, tu t'es senti instrumentalisé, par exemple.
Oui. oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et on n'avait pas le droit de parole aussi, d'ailleurs.
Ah.
Je sais pas pourquoi. C'était bien. Enfin. Je me répète, mais c'était juste, il parlait, et puis on écoutait, et on applaudissait, et puis il parlait, on écoutait, on applaudissait, enfin c'était environ quoi. Et j'ai pas pu avoir d'autographe aussi, il est parti direct après. Voilà, c'est tout ce que... Voilà, c'est tout pour moi.
Ouais, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup parce que justement, on va essayer le plus possible de faire en sorte... de créer des temps d'échange, mais vous savez tous que c'est compliqué quand on est nombreux, et surtout qu'il faut qu'on apprenne tous et toutes à prendre la parole pour que ça se passe bien. On va quand même commencer par mes premières questions, parce qu'il y a des thématiques. Je reprends. Voilà. Je viens de dresser en fait le contexte actuel, c'est-à-dire les municipales qui approchent. Et je vous ai aussi présenté. Donc ma première question, elle est en direction de Marjolaine et toi, Gaëlle. En tant qu'affiliée au parti politique de la LFI. Mais vous pourrez répondre vraiment. Ouais. Et Europe Écologie des Verts, vous portez aussi deux organisations, Rennes Commune et Confluence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos liens avec ces partis, dits plus traditionnels quand même ? Et quels sont vos points de dissidence et comment est-ce que vous vous positionnez en fait? Parce que si moi je suis un peu perdue, je pense que les gens en fait ils sont peut-être un peu perdus aussi. Voilà, c'est ma première question pour vous deux.
Merci Lauriane pour la question. Quand tu t'intéresses au champ politique. Et que tu penses qu'il faut que les personnes comme moi qui sont dans un quartier, qui sont mères isolées dans des situations de précarité, etc., et les autres personnes autour, il y a un moment, avec moi mon parcours de militantisme depuis les années 2000 à Rennes, le constat c'est que, moi je parlerais de militantisme éducatif un petit peu envers les dominants, mais à un moment tu vois que le pouvoir il est concentré quelque part, le pouvoir il est à l'Assemblée nationale, le pouvoir il est autour de la table du conseil municipal, et donc ce que je dirais c'est que les partis politiques en fait ils ont cette démarche de toute façon de prendre le pouvoir là où en fait il est. Et pour moi, le projet politique qui est porté par la France insoumise, ça reste quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense des attitudes de Jean-Luc Mélenchon, ça reste un espoir politique en France. Il y a des résultats électoraux qui sont allés dans ce sens. Donc moi, je suis la première à être mal à l'aise avec les modes d'organisation de ces partis-là, et c'est pour ça qu'on a fait Rennes Commune, parce que effectivement c'est pas évident d'aller à des réunions à 19h le jeudi soir où il y a que des personnes qui sont aussi parfois socialement éloignées, mais ça peut être même où en fait tu vas être la seule mère isolée par exemple avec ce problème de garde d'enfants le jeudi soir à 19h pour participer à ce meeting-là. Et puis que voilà, il y a une culture politique que tu n'as pas forcément et que en fait tu te rends compte que dans cette organisation-là, avoir petit à petit déjà dans cette organisation un petit peu de pouvoir, ça va être très compliqué. Après ça n'empêche pas, comme j'ai dit, que ça représente un espoir politique, mais nous tout simplement on a élaboré une stratégie pour que ça puisse fonctionner avec ce qu'on a envie de porter. Donc Rennes Commune, c'est une association comme tu l'as dit, en fait, qui part de personnes aussi de la société civile, de citoyens et citoyennes, et qui est plus dans des démarches en fait de faire des événements par rapport à ce que la parole des habitants, le ressenti des personnes des quartiers, et avec toute notre histoire militante aussi, des constats qu'on fait, des choses qui peuvent être dites, et ben on va organiser après des événements qui sont ancrés en fait, qui sont en fonction de cette parole là et qui sont pas juste des comme il a dit la personne qui a témoigné sur le meeting, mais voilà,
Isabelle, pardon.
Comme l'a dit Abdel, où tu organises un événement parce qu'il faut faire un événement qui va peut-être toucher telle ou telle population, et puis tu essayes d'avoir les personnes qu'il faut pour la photo, et puis finalement ça crée beaucoup de frustration en fait. Donc on a essayé en tout cas de proposer des espaces politiques où cette frustration elle peut baisser un petit peu, quoi. Voilà.
Je fais une petite intervention pour les ateliers. Pour ceux qui voudraient participer aux ateliers, il y a Sylvie et Nadège ici. Vous pouvez, je pense qu'on va vous pouvez commencer. Ça vous va?
Ouais.
Qu'on vous enlève pas quand même pour ce que vous êtes venu. Vas-y, Gaëlle.
Parce que je suis désolée, j'ai plein d'allergies, donc j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours d'engagement et un parcours politique assez classique, en fait. En plus, j'ai fait des études de Sciences Po. Enfin, je suis le modèle un peu de l'engagement classique dans un parti. J'ai commencé par du militantisme quand j'étais lycéenne. J'ai fait les mouvements de 95. J'étais dans un mouvement antiraciste. Syndicalisme étudiant. Donc, c'est vrai que c'est un parcours assez classique, sauf qu'à un moment... j'ai fait le choix de l'écologie politique. Et effectivement, donc j'ai adhéré c'était les Verts à l'époque, hein, ça s'appelait les Verts. Et c'était, j'y suis venue plutôt par les questions sociales et sociétales que même l'environnement, même s'il y avait cette sensibilité-là. Mais je suis pas bretonne, et donc dans la région, c'est plutôt la question des droits LGBT, droits humains. C'était la question, j'étais dans une asso qui faisait de l'accompagnement, le Toit du Monde à Poitiers, je sais pas, qui fait de l'accompagnement à l'OFPRA, et puis des personnes primo-arrivantes, et puis dans les démarches juridiques des migrants. Et donc voilà, je suis rentrée dans l'écologie par ce biais-là, parce que justement l'écologie c'était pas la vieille gauche, quoi, ce qu'on appelait la vieille gauche productiviste. C'était la question aussi des inégalités nord-sud. J'y reviendrai sûrement, j'espère que j'aurai l'occasion, mais avec peut-être un manque de connexion avec les questions sociales au départ dans l'écologie politique historiquement en France, mais en tout cas avec cette idée de défense des peuples autochtones, de la question du pillage des ressources dans les les pays, notamment en Afrique, en Asie aussi, en Amérique du Sud, etc. Donc cette solidarité aussi avec les questions, les luttes pour l'environnement dans les pays du Sud. Et donc je suis rentrée par cette porte-là. Et puis voilà, un parti qui faisait sa place aux femmes, qui faisait sa place aux jeunes. Et donc j'ai eu ce parcours d'engagement un peu facilité, parce que un parti aussi organisé autour de la parité, autour de l'égalité femmes-hommes et autour, qui faisait sa place. Je suis arrivée à Rennes, j'ai milité très vite. Alors j'ai eu d'autres parcours d'engagement associatif, mais c'est vrai que comme Marjolaine, pour moi, il faisait pas un pli qu'à un moment le pouvoir aussi, enfin, fallait le prendre aussi. Pour porter un projet d'écologie politique, et que le pouvoir, il n'est pas que dans les institutions, mais il est aussi dans les institutions. Et l'idée, c'est d'avoir un pied dans la société civile, un pied dans la lutte en dehors des institutions. C'est aussi mettre le pied dans les institutions pour pouvoir faire avancer très concrètement les luttes, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que très vite je suis allée sur rentrer dans un parti politique, mais qui pour moi portait des choses qui n'étaient pas classique, enfin, qui, même dans le modèle de militantisme, comme la place de garderie pour les enfants, lors des réunions en soirée, enfin, qui se donnait les moyens, en fait, aussi, de pouvoir faire militer, notamment les femmes, à un moment où c'était pas évident.
Ok, merci beaucoup. Et ne reposez pas tout de suite votre micro, s'il vous plaît. Mais justement, enfin, il y a quand même, toi, Marjolaine, tu l'as présenté un petit peu plus les points de rupture, en fait, qui vous ont aussi amené à vouloir penser les choses autrement et de vous organiser autour de Rennes Commune. Et toi, Gaëlle, comment est née Confluence, en fait? Est-ce que donc Confluence, c'est de la rupture, c'est quoi?
J'y vais pour cette Confluence. Mais Confluence, c'était en 2020 et c'était on voulait porter un projet d'écologie populaire pour toutes et tous, en fait, et on voulait que tout le monde se retrouve, en fait, dans ce projet d'écologie populaire, bien conscient de nos limites et du peu de représentativité qu'on avait en tant que militant de l'écologie politique, mais je pense que c'est dans tous les partis politiques, ce difficile accès au militantisme dit classique dans les partis politiques pour tout un tas de personnes, et notamment personnes racisées, personnes en quartier populaire. Et donc on a cherché, en fait, là aussi le moyen d'aller vers différemment et de faire différemment. Et donc on a et puis c'était dans la foulée de les Verts qui sont devenus Europe Écologie Verts, mais il y avait aussi vous savez, on a ouvert le parti, on pouvait ne plus être adhérent seulement, on pouvait être coopérateur. Et donc c'était l'idée qu'en fait on n'était pas obligé, si on s'intéressait pas à la boutique politicienne, les élections, etc., mais on pouvait quand même contribuer au projet en étant coopérateur. On était dans la lignée de cette dimension là citoyenne. Et puis voilà, et puis cette conscience qu'il fallait faire avec des habitants qui n'étaient pas constitués en asso, en collectif ou en parti. Voilà. Et donc, Confluence, c'était ça. Et ça nous a permis d'alimenter un projet pour les municipales, et un projet vraiment avec une vraie dimension citoyenne, pas aussi aboutie que dans d'autres villes, comme je pense à Poitiers ou quoi, mais qui sont allés vraiment au bout. Mais on a posé les jalons, et là on a lancé à nouveau Confluence. Alors pour l'instant, pour le périmètre, tout le périmètre existant, mais après ça peut s'élargir, mais avec aussi cette idée vraiment de défendre la dimension citoyenne et tous ces engagements aussi non formels, de les valoriser et puis qui viennent alimenter le projet politique. Et donc là, on est vraiment dans la phase d'écoute, expertise habitante, associative, pour nourrir le projet là pour les prochaines municipales. Mmh. Je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, ça donne des points de compréhension, en tout cas. Mais je vais quand même aussi me tourner vers les autres qui sont peut-être un peu délaissés. Myriam, Steve, vous êtes plutôt issus d'organisations syndicales, citoyennes. Et est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous positionnez en tant que syndicat, mais aussi en tant que citoyenne, face aux partis politiques dits traditionnels, voilà. Donc en tant que Front de Mer et en tant que Myriam. Et quelles sont vos attentes en termes de possibles alliances en vue des élections municipales? Vous le sentez comment?
Un, deux.
Donc, positionnement vis-à-vis du parti.
Alors, quelle position? quand tout à l'heure Priscilla en parlait, il y avait ce truc de un pied dans l'institution, un pied sur le terrain. J'aime bien ce truc de cette manière de penser les choses, mais par rapport aux organisations traditionnelles ou hégémoniques de gauche, il y a un peu ce truc de, je sais pas, les deux ou les trois C, genre conflictualité et coopération. Conflictualité, coopération, construction, peut-être. Un truc de, on va assumer le fait. De toute façon, c'est un truc de gauche apparemment, la conflictualité, donc on va le faire, du coup, déjà, hein. Mais au-delà de ça, c'est même un truc démocratique à la base, la conflictualité, je pense, c'est même ça. C'est, ça dépend quelle modalité de ce conflit. Mais du coup, l'idée, c'est de, pour le Front de Mer, si j'ai bien compris, il y a un enjeu à, en fait, partir de, on parlait d'expertise, partir du vécu des personnes qui constituent le Front de Mer. Le Front de Mer, c'est des parents, notamment, mais pas que, mais c'est majoritairement des parents. Qui c'est qui a la charge parentale? C'est les femmes, donc c'est notamment beaucoup de femmes dans le collectif. Et il y a l'idée de partir de tous les points de tension, de dissension, de les assumer et d'en discuter, de pas faire semblant, en fait. Et à partir de là, peut-être un peu à la manière dont vous en parliez tout à l'heure avec Priscilla, un peu à la manière dont s'est peut-être construit l'Assemblée des quartiers populaires à Paris. C'est pas que Paris, c'est la région francilienne. Il y a ce truc de qu'est-ce qu'on peut quand même faire ensemble, en fait? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? C'est quoi nos points de raccord? C'est quoi nos possibilités d'action commune? Et quand j'ai peut-être ajouté le troisième C pour la construction, il y avait peut-être l'idée aussi de stratégie dont vous avez déjà toutes les deux parlé, dont on va aussi parler, je pense, Feriem. C'est aussi se dire que le pouvoir, il est souvent volé aux gens, mais le pouvoir, il est aussi partagé, le pouvoir, il est diffus, il est partout, mais il est aussi concentré. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc de s'organiser à récupérer plus de pouvoir pour l'intérêt de plus de personnes, parce qu'il y a tendance à être toujours dans les mains des mêmes gars, les mêmes vieux gars blancs riches, là. Du coup, ce serait bien qu'on le distribue autrement. Mieux, plus souvent, avec un pouvoir rétroactif aussi, parce que on n'est pas parfait. Du coup, voilà, conflictualité et coopération, je dirais ça pour le Front de Mer.
Merci beaucoup, Steve. Pierre-Marianne, vas-y.
Donc moi, je suis issue d'un quartier issu du Blône depuis plus de 47 ans. Et j'ai vu l'évolution, et là, moi, je me positionne sur aucun parti. Je me positionne en tant que personne et en tant qu'individu à part entière qui essaye d'aider mon prochain comme du mieux que je peux, en essayant de rallier la cause de chacun sans prendre parti, en essayant de donner la parole à chacun et essayer de rallier les interquartiers entre eux pour pas qu'on se retrouve seul. Hein, parce que c'est ce qu'on essaye de faire avec Rennes Sud Mobilisé, c'est de... On essaye de faire des propositions pour qu'on puisse partager ensemble, hein, faire des choses ensemble. Parce qu'on voit souvent que chacun est mis de côté et qu'on se retrouve pas... Enfin, tout le monde se... fait dans son coin, mais quand on se rassemble, il y a de belles choses qui se créent. Et le fait de prendre parti, enfin, je vois pas ça. On voit, enfin, les partis entre eux se tapent tellement dessus. Faut être clair. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pouvait ressentir quand on se retrouve dans un parti politique. On a eu la vision d'Abdel. Moi, je l'ai fait une fois quand Olivier Faure était venu sur Rennes.
J'étais là.
T'étais là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ma position. Je dis, nous, on commence vraiment à en avoir marre. Pourquoi ne pas venir vers nous? Nous demander, nous qui sommes sur le terrain, et voir avec nous comment faire ensemble. Quelle idée d'aller faire des choses, vous, de votre côté, nous, on a cette capacité de voir ce qui peut se passer dans les quartiers, ce qui va pas, et vous prenez les décisions pour nous. Au lieu de les prendre avec nous, vous les prenez sans nous. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment dommage. Mmh. Et c'est ce point de bataille qu'on essaye d'essayer de faire ensemble.
Donc, Myriam, excuse-moi, si j'ai bien compris... Pas de choix, pas de parti, pas en tout cas de choix vis-à-vis des partis politiques qui actuellement sont constitués
Non, il y a pas. C'est pas que c'est pas. Il y a pas de choix. C'est que voilà, je vais pas te dire ouais, je vais aller voter RN.
Non, non, non.
De choisir un parti. Enfin, c'est un parti qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est quelque chose. Il y a divers partis de gauche. Et ça, ce que je trouve contraignant, c'est pourquoi ne pas trouver une solution tous ensemble en étant de gauche et de voir. Je sais qu'il y a des discordances par rapport à chacun. Et cette façon de faire, enfin, on s'est rassemblés la dernière fois pour essayer de contrecarrer un parti parce qu'on s'y retrouvait pas tous ensemble. Et on a vu que le fait de se retrouver tous ensemble, on a pu faire des choses et travailler ensemble dans de bonnes pour le bien de tous, quoi. Et juste le fait d'avoir voté et que c'est, enfin, et que voilà qu'on a réussi à faire les choses, on n'a pas attendu une semaine avant que tout se scratche.
Bien sûr.
Donc pourquoi pas essayer de trouver quelque chose qui peut nous raccorder tous ensemble au niveau local et puis même au niveau de la France, France entière, quoi. Ah oui, et partir vraiment du point, enfin, on a des choses à apporter avec eux. Eux peuvent nous apporter comme nous, on peut leur apporter. Donc si on fait chacun de son côté, ça ne va pas marcher.
Donc toi, tu devrais en tout cas pour davantage de liens et de communication et de faire ensemble. Ok, ouais. Mais ça j'entends. Le temps, il passe vite. J'ai quand même envie de continuer les thématiques. Moi, j'ai une question pour vous, public, auquel vous pourrez répondre aussi à l'espace bilan. On parlait tout à l'heure des choses à mettre en place et comment, en fait, quelles seraient les choses à mettre en place pour se protéger contre la récupération politique. C'est pour vous. Vous pouvez nous donner certaines idées que tout le monde sera ravi de peut-être de récupérer après, en tout cas. Il y a une deuxième thématique que j'aimerais aborder, c'est celle des conflits en cours, des génocides. Et en tout cas, les génocides en cours dans la bande de Gaza, mais aussi bien au Congo et au Soudan, sont invisibilisés, voire niés par les instances politiques et les médias français. Qui condamne même les mouvements de soutien en faveur du peuple palestinien. Alors que notre gouvernement et les entreprises ont des implications directes dans ces conflits. Les conséquences pour les Français et Françaises vivant sur le territoire ici sont importantes. Si les premiers sont discriminés et criminalisés de par leur ascendance réelle ou supposée, et ou leur confession religieuse, les autres sont tout simplement déconsidérés et n'ont pas d'existence dans la sphère médiatique et politique française. Bref, on ne sait pas pourquoi la guerre au Congo, personne ne comprend rien. Question. Comment localement vos partis, organisations, syndicats, associations se positionnent face à ces génocides et comment ils accompagnent et apportent un soutien effectif aux citoyennes qui les dénoncent ? Chifoumi. Merci Marjolaine.
Alors moi je précise quand même, enfin pour revenir sur ce qui a été dit, on n'a pas Rennes Commune n'a pas l'investiture France Insoumise à l'heure actuelle.
Ok.
Voilà. Moi je n'ai pas de mandat, on n'a pas d'élu à Rennes Commune, donc l'idée pour nous c'était quand même de faire une dans le contexte des municipales d'avoir une action politique qui se enfin de rupture à gauche de la municipalité actuelle. Et au niveau local, c'est un travail que j'espère que je ne vais pas froisser des gens qui sont de la LFI, mais moi j'estime que c'est un travail qui n'était pas fait par la France Insoumise. On n'avait pas vraiment d'opposition à gauche formelle dans cette ville. Donc après, voilà, par rapport à ce qui se passe notamment à Gaza et en Palestine, mais depuis longtemps. Étant proche de toute façon des actions citoyennes, des associations citoyennes qui sont sur le terrain rennais, on est forcément en soutien. Et des choses qui pourraient être faites et qui n'ont pas été faites par la ville, par exemple. Et ça, c'est des personnes de France-Palestine qui peuvent vous, enfin, qui le diraient mieux que moi, mais du coup, je vais le dire pour eux et elles. Il y a des leviers d'action en fait au niveau municipal, parce que la municipalité, elle a et c'est très bien, elle a financé par exemple un centre culturel qui se trouve qui s'appelle Al-Bustan, qui se trouve dans la vallée de Silouane, donc à Jérusalem Est, sur les territoires occupés par Israël. C'est un centre culturel, artistique, où il y avait de l'aide à la scolarité, etc., qui a été financé par plusieurs villes, donc dont Rennes, Gennevilliers, il me semble, aussi. Oui, Gennevilliers. Et il se trouve que ce centre, il a été détruit par l'armée israélienne. Il n'y a pas eu de communiqué de la maire de Rennes, en fait, par rapport à ça. Alors que Gennevilliers ont fait, par exemple, des publications pour s'en plaindre et
Donc la mairie de Gennevilliers a, elle...
Oui, elle s'est révoltée, en fait, fait un mot là-dessus pour dire que c'est pas normal, en fait, que des centres qui sont financés par les dispositifs de solidarité internationaux se fassent détruire par l'armée israélienne et qu'en France, rien ne se passe. Et donc là, le premier niveau, c'est effectivement la municipalité pour réagir. Donc ça, c'est des choses concrètes. Et je pense que aujourd'hui, la municipalité ne se positionne pas clairement depuis le début de ce qui se passe en Palestine. Donc, moi, je dirais toujours la même chose. C'est, de toute façon, l'action politique qu'il faut porter, c'est d'être à l'écoute des associations, des gens. En fait, à Rennes, on a ce qu'il faut. Mmh. Sincèrement, il y a des assos qui sont mobilisés, et qui te disent même. Moi, il y avait une autre action qu'on nous avait suggérée, c'est il faut faire des zones BDS, par exemple, à Rennes. Donc ça, comment? Mais après, c'est peut-être une BDS, boycott des investissements, sanctions. Donc des zones, ça veut dire, alors moi, on m'avait dit, évidemment, il faut le faire à Italie, parce que c'est mon quartier, qu'on connaît un peu les gens. Mais en fait, moi, toute seule, j'ai pas de... Enfin, comment tu veux que je fasse? J'ai une asso, en plus, qui est financée par l'État et tout. Donc, mes copines sont un peu venues me dire, Italie, là, faites une zone BDS, machin. Mais non, ça, c'est quelque chose qui doit être porté, en fait, je pense, par une municipalité, de dire, il y a des endroits, peut-être, où... Et il y a des gens qui seront prêts à le faire s'ils ont un minimum de soutien politique, des zones où, en fait, on n'a pas de produits qui viennent d'Israël, parce qu'on ne peut pas peut-être agir sur le désarmement ou des choses comme ça. Mais dans ces zones-là, parce qu'on se positionne dans une situation qui est de mettre fin à un génocide, à un apartheid, et que c'est des boycotts qui ont déjà fait leur preuve dans l'histoire, quoi. Je ne vous apprends rien. Mmh. Voilà.
Gaëlle ?
En fait, Rennes a une coopération avec Beituna en Palestine. Enfin, c'est autour de l'action de l'eau, c'est la collectivité eau du bassin rennais. Et donc, il y avait eu des messages de solidarité. Il y a eu un courrier des élus. Alors, c'est un élu, c'est les élus municipaux. Hein, pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a eu des expressions en soutien aux Palestiniens à la mairie. Mais c'est vrai que, alors, l'idée n'est pas de sanctionner des villes avec qui on aurait des coopérations. On n'a pas spécialement de coopération avec des villes israéliennes, mais c'est plutôt d'être en soutien justement des villes avec qui on est en partenariat à Gaza et en Palestine. Et sur le boycott, sur le BDS, effectivement, c'est quelque chose qu'on porte, nous les écologistes, c'est-à-dire via la commande publique, parce que pour le coup, on a un gros levier qui est la commande publique, et effectivement, c'est pas aux les associations dans leur projet associatif, elles peuvent faire ça, mais c'est compliqué. Et effectivement, par contre, une collectivité comme la ville de Rennes doit pouvoir porter ça. C'est pas le cas actuellement, moi je le regrette, c'est quelque chose qu'on défend. Et c'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit,
concrètement, est-ce que tu peux redire pour que tout le monde comprenne
pas d'investissement en lien avec la politique de colonisation israélienne.
On est toujours dans le BDS.
Voilà, c'est toujours dans le BDS. Pas de produits issus des colonies. Enfin, voilà, c'est tout ça. Donc ça, c'est évidemment, on peut le porter. Mais et c'est vrai qu'en fait, il y a 10 ans encore, ou il y a 15 ans, toute la gauche aurait eu une seule voix pour défendre Gaza. Il y a eu un recul énorme à gauche et tout le monde s'est pris la tête sur les mots, sur génocide, pas génocide. Mais en fait, franchement, moi, ça me désespérait parce que le génocide, bah oui, même s'il est pas, il n'était pas encore établi, mais on voyait bien qu'on allait, que tout était là pour aller vers un génocide. Et effectivement, il y a eu une part de la gauche qui a été paralysée dans son expression de soutien au peuple palestinien autour de la question de l'antisémitisme. On a tout mélangé. C'est-à-dire que, en fait, on pouvait plus soutenir la Palestine et Gaza sans avoir peur tout d'un coup d'être traité d'antisémite. Parce que oui, c'est vrai, il y a de l'antisémitisme aussi en France et qu'il y a des faits d'antisémitisme graves. Et donc, on a tout mélangé. Et donc, au nom de... Alors, on a peur, il ne faut pas que la communauté juive israélienne, etc. Mais en fait, et on s'est perdu dans des débats sans fin. Et je trouve qu'on n'a pas été à la hauteur. La gauche réunie n'a pas été à la hauteur dans la dénonciation de ce qui se passe, à Gaza, dans le génocide. Voilà. Et vraiment, je le regrette profondément.
Et moi, ma question, bien sûr, merci de revenir. Steve, je te laisse aussi répondre. Mais je veux bien resituer aussi la question. Bien sûr, on parle du soutien de la gauche à la cause palestinienne, mais pas que, en tout cas... En tout cas, en soutien et en dénonciation des génocides en cours dans plusieurs autres pays. Je tiens à le préciser parce que moi, je viens d'un pays où c'est invisibilisé, donc j'ai un peu le seum. Mais la question, c'était plutôt comment est-ce que vos partis à vous, vos organisations à vous et vos syndicats à vous se positionnent, donc vous l'avez dit, mais aussi accompagnent et apportent un soutien effectif aux citoyens qui les dénoncent. C'est vraiment qu'est-ce qui est mis en place à petite échelle pour apporter du soutien.
Alors là, je vais jouer mon stage, du coup, il ne faut pas que je me plante, mais non, plus sérieusement, j'ai bien révisé normalement. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en vrai, entre le fait de partir déconcerné, il y a un maillage incroyable sur Rennes, comme le fait qu'il y a une gauche blanche et coloniale qui doit se reconnaître, hein, bref. Il y a un truc de dans le front de mer, on n'est pas seulement à Rennes à la base, c'est une expérience qui est née à Bagnolet. Oui. C'est un réseau d'antennes et il y a ce truc de se réapproprier les choses, hein. La bonne vieille méthode des minoritaires, c'est de reprendre le stigmate. Bah du coup la fête de mer qui était genre super sexiste devient une fête féministe. Du coup, il y a le braquage de la fête des mères. L'idée, c'est de reprendre cette fête pétiniste, sexiste, et de se la réapproprier en tant que femme, en tant que mère, et dans les droits. L'idée de se battre pour les droits des enfants, de se battre pour un sujet politique en partant de sa condition de mère. Et je parle de ça, pas pour juste me la péter et parler du fait qu'on fait une super fête tous les ans dans le réseau des fonds de mer, mais parce que, pas cette année-là, l'année dernière, ça s'est passé à Bruxelles. Et l'événement était tourné notamment sur le soutien par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à la Palestine. Il y avait l'idée de prendre la parole, de créer des espaces de discussion et d'éducation. Comme pour revenir à Rennes, et je vais finir sur ça, on n'a pas fait malheureusement grand-chose, peut-être là qui me vient à l'esprit, si ce n'est peut-être proposer encore une fois des espaces de discussion dans le cadre des Dingueries de la Terre, juste derrière vous, c'est affiché. Dans le cadre des Dingueries de la Terre, avec d'autres associations comme Cœur Esquem, comme le CRIDEV, comme le GRPS, et on a pu par avoir des discussions sur qu'est-ce qui se passe au Congo, c'est quoi l'extractivisme, comment ça se fait qu'on n'en parle pas. Et on a eu des discussions super intéressantes, intergénérationnelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, et au-delà de... Comment dire? C'est des discussions en fait qui sont soit criminalisées, soit invisibilisées. Et ça me fait penser un peu à ce rapport à l'écologie et l'écologie populaire où genre c'est pas qu'on est des oubliés, c'est qu'on est entravés en fait. C'est qu'on nous empêche. Mais du coup c'est pas grave, on se bat quand même. Et on crée de l'espace, on prend de l'espace. Du coup voilà, c'est ça qu'on fait dans le fond de mer si j'ai bien compris.
Je pense que j'ai encore mon stage. Je tiens aussi à rappeler que le 15 juin vous faites une marche des mers. Voilà.
Bon, et du coup, je suis votre pub. Bon, j'ai plus mon stage du coup, mais du coup le 15 juin effectivement il y a une marche pour les mamans avec Gaza.
Exactement.
Et demain, et il y a notamment plein de copines, de copaines, de camarades, de sœurs, frères, Adelphes dans le front de mer ou autour et aux alentours qui vont y participer. Du coup, va falloir qu'on suive ça et qu'on donne de la force.
C'est ouais. Ouais, Paris, ouais Paris, voilà, Paris, c'est pas au niveau local. T'as pas perdu ton stage, juste.
À Paname. C'est à Paname, désolé.
C'est à Paname. Au début, ça devait être l'Élysée. On parle d'entrave. Maintenant, c'est les Invalides. On sait tout ça. Du coup, on va en arriver à la deuxième thématique. Déjà, je tiens à vous remercier chacune. Hein. Vraiment, j'essaye d'être incisive, mais il y a de la bienveillance quand même. Mais on va aller encore. Voilà. Hein. Du coup, ces dernières années, au sein de la sphère politique et de l'Assemblée nationale, l'islamophobie a été exprimée sans retenue par certains députés qui ont qualifié certaines religions de non compatibles avec les valeurs de la République. Je citerai même Retailleau à bas le voile. Mais, oui, il a dit ça. D'après votre expertise, comment se manifestent l'islamophobie et le racisme d'État au niveau local? Et comment aussi vous entreprenez des actions et pour le dénoncer au niveau local et pour lutter au niveau local? Racisme d'État.
Nous, on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé. On a fait une manifestation contre l'islamophobie dernièrement. Mm. Et qui a eu... c'était vraiment fait au pied levé. Et ce qu'on a ressenti, c'est qu'on n'avait pas été... on a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues au niveau de cette mise en place. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et que le fait qu'on... On nous a permis, grâce aux habitants du quartier, de faire cette manifestation tous en commun, grâce à différentes associations, collectifs de quartier, à la mettre en place. Et on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu autant de monde. Franchement, c'était vraiment une fierté de l'avoir fait et d'y avoir participé en tant que... Moi, de confession musulmane, et de se prendre tout le temps des réflexions et de ne pas être compris, qu'on n'arrive pas à nous comprendre. L'islam est compatible avec
les valeurs de
au niveau de la valeur de la République. Mais on fait tout pour essayer de nous marginaliser et de nous. De diviser, enfin comme on dit, diviser pour mieux régner, mais non, c'est pas ça. Il faut qu'on se rassemble ensemble et qu'on arrête de stigmatiser telle ou telle religion. Ça peut être le christianisme, comme ça peut être le judaïsme, comme ça peut être l'islam, comme ça peut être tout n'importe quelle religion. Enfin, on est là pour être ensemble. On n'est pas là pour que chacun soit dans son coin, enfin qu'on stigmatise l'une par rapport à l'autre. Et on est capable de faire des choses ensemble. Moi, la seule chose que je vois qui prend vraiment beaucoup de plus en plus de place et plus d'importance dans le quartier, c'est quand on peut se réunir différentes nationalités. Par rapport au street food qui va se faire prochainement à la fin du mois. Et on arrive à se réunir tous ensemble. Et là, on ne voit pas cette division-là. On ne voit pas cette différence. Hein. Et donc, on peut dire que oui, on peut être de religions différentes et être ensemble malgré tout. Ouais, et donc, voilà quoi. Ouais.
On peut mettre au centre les différences.
Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Myriam, par rapport à des bâtons dans les roues. Ils ne sont pas venus des organes politiques. Cette manifestation contre l'islamophobie, si elle a pu avoir lieu, honnêtement, c'est grâce à Sud, le syndicat Sud. Ouais. C'est vraiment eux, ils nous ont amené tout le matos et tout. Et puis, et Sud, en fait, ils ne posent pas trop de questions. Quoi. C'est bon, il y a marqué...
Oui.
Mais c'est vrai que parce que quand tu veux faire quelque chose sur l'islamophobie, t'as tout de suite plein. Enfin, on va te poser des questions.
Oui, bien sûr.
Concrètement, c'est ça qui se passe. Et donc, c'est bien d'avoir des alliés aussi qui n'en posent pas trop, qui te font confiance parce qu'on essaye d'organiser aussi les choses à partir du quartier, effectivement, en autonomie. Après.
Racisme d'État au niveau local.
Moi, je dirais juste, pour revenir quand même un petit peu en arrière sur racisme d'État et islamophobie qui vont ensemble, le tsunami islamophobe, c'est les années, de ce que moi j'ai vu, c'est des années 2000, 2003, l'avant-loi contre le voile à l'école en 2004, etc. Et dire quand même qu'il y a des filles très jeunes, 17-18 ans qui étaient lycéennes, qui se sont mobilisées, des filles musulmanes, qui se sont mobilisées énormément à Rennes, qui ont déjà organisé peut-être une première manif contre l'islamophobie en 2004, du coup. Et encore une fois, c'est pas... Enfin, les soutiens étaient frileux, mais quelque part, c'était quand même, les Verts, où il y avait quand même des personnes qui étaient plus proches de cette lutte-là et qui n'ont pas eu, le soutien du parti là-dessus. Mais chez les Verts, il y avait des personnes, en fait, qui nous soutenaient. Ensuite, à Rennes, dire aussi qu'il y a eu que ces actions-là de ces femmes musulmanes, ce qui a bougé localement, c'est quand il y a eu une alliance avec des assos de femmes queer. Okay. Donc quand j'entends certains milieux décoloniaux actuels qui te disent qu'il n'y a pas dans les quartiers, qu'ils ne constatent pas, donc franchement je ne sais pas où ils sont après, mais ils ne constatent pas d'alliance entre les personnes queer ou la communauté, enfin LGBT maintenant, et les personnes des quartiers, etc., c'est faux. Parce qu'il y en a eu, et grâce à ça, cette association de femmes musulmanes a obtenu un local, en fait, parce que la ville était contre, c'est pas la municipalité actuelle, hein, c'était il y a, moi je parle des années là, 2010. Il se trouve qu'on a obtenu un local grâce à cette alliance là, parce que c'était les féministes queer, en fait, elles étaient au devant, en fait, elles étaient vraiment au devant du féminisme et tout ça, et que ça c'était intéressant pour la ville de garder ces personnes là dans un peu de proche de ces orgas politiques, et donc les négociations étaient vite faites. C'est en fait ces femmes là vous leur donnez un local demain. Et c'est presque passé comme ça, je te jure. Le lendemain, il y avait un local. Donc après, c'est des luttes qui se sont essoufflées aussi. Et ce que je peux dire aussi sur l'antiracisme, je parle de la lutte contre l'islamophobie. Hein. Il y a eu un petit... Voilà, c'est un peu quand même clairement, avec toutes ces lois séparatistes et tout ça, le mouvement contre l'islamophobie à Rennes, qui était fort, hein, que c'était... quand même reconnue comme une ville qui bougeait beaucoup, même au niveau de la France, grâce à ces femmes-là. Et donc, avec le séparatisme, la loi séparatisme, la fermeture du dissolution imposée du CCIF, etc., je ne vous refais pas l'histoire. Sur, par exemple, l'assassinat de Babacar Gaye, qui s'est produit juste à côté là, Babacar, il est assassiné en 2015. Tout le monde a l'histoire, ça va ? Donc, assassiné par la police, hein, un assassinat policier. La première fois que j'ai vu des drapeaux d'orga politique, c'était en 2020, ouais. Sur la manif. Pourquoi ? Moi, je l'ai analysé comme ça, en tout cas, parce que c'est l'année où George Floyd a été assassiné. Ouais. Donc, on a quand même ce souci où des personnes, qui sont, qui sont sensibles aux questions d'antiracisme, etc., mais qui tout d'un coup s'identifient plus fortement, en tout cas sont plus en empathie et se disent, là, il se passe vraiment un truc. Quand George Floyd est assassiné aux États-Unis, et puis là, on se rend compte que il y a une lutte sur les assassinats policiers qui se passe à Rennes, quoi. Ouais. Et ça, on est plusieurs à l'avoir vu vraiment. Donc après, c'est comme ça. Tout comme en 2018, Mélenchon, tout d'un coup, ça lui prend d'aller faire une marche contre l'islamophobie, parce qu'en même temps, la gauche n'a plus que le joker des quartiers jusqu'à actuellement. Il n'y a plus que le joker à gauche, c'est les quartiers populaires, en fait.
Bien sûr.
Il
n'y
a plus de cartes, là. Donc, ouais. C'est pour ça, quand on parle d'instrumentalisation et tout ça, c'est... faut aller même au-delà, parce que c'est comme ça.
C'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'on est réunis aussi. On n'est pas naïf, quoi. Et merci beaucoup, Marjolaine. Gaëlle, je vais te laisser répondre. Merci par ta réponse, parce que de toute façon elle arrive elle répond à une autre question que j'avais t'es trop forte, en fait tu lis l'avenir. Mais voilà, mais en tout cas, oui, on pourrait d'ailleurs pour le public un petit point de réflexion. Posez-vous les questions sur à quel moment, en fait, après combien de temps est-ce qu'il faut à des personnes, des organisations politiques pour défendre une cause
Je pense que ça aussi, c'est, s'il y a des gens qui rapportent les choses, c'est bien un petit peu aussi d'étudier les temps de décalage qui existent. Ça peut nous apprendre. Gaëlle, je te laisse répondre.
Ouais. Oui, il y a un décalage pour plein de raisons. Il y a aussi, moi, j'ai fait les marches à Maurepas. Enfin, j'ai fait pas toutes les marches, mais j'ai fait des marches pour Babacar. Et en fait, aussi, c'est vrai qu'on n'était pas, on sortait pas le drapeau parce que vous parlez tout, enfin, de récupération et tout. Donc, on a aussi toujours cette crainte quand on est une organisation politique de dire, bah, non, bah, si je sors le drapeau ou si je m'affiche comme, tout le monde va dire que je fais de la récup. Enfin, et donc aussi, alors, il y a une espèce de,
oui, oui, c'est vrai.
C'est une vraie c'est question, vrai. En fait, comment vous, oui, c'est vrai, on se pose, nous aussi, la question de comment, c'est quoi notre place dans les luttes, en fait, quand on est issu d'un parti politique, donc c'est compliqué. Ah oui, bien sûr, mais on avait communiqué, mais oui, mais c'est vrai, c'était sensible parce qu'on posait tout simplement la question des violences systémiques dans la police et que il y avait le côté, effectivement, mais non, ça n'existe pas en France, c'est américain, enfin, c'est un phénomène américain.
Dans votre élément de langage,
j'ai pas la mémoire de ça. Par contre, c'est quelque chose qu'on a dénoncé très tôt, mais effectivement, chez les Verts, et là, à Europe Écologie, aux écologistes, pardon, ça, là, ça c'est, je veux dire, vraiment, ça a été travaillé parce qu'il y a un GT anti-racisme, il y a un GT quartier populaire, etc. Donc, ça nous a permis de travailler ça aussi, puis le discours, enfin, voilà, d'affirmer le discours des écologistes sur cette question-là. Mais on le dénonçait déjà, mais après avec quel mot, quand, je saurais pas dire. Mais c'est vrai que en fait, en France, il y a une, il y a ce principe de laïcité, mais qui est une laïcité asymétrique. On le sait bien. Donc là, il y avait un dernier exemple. C'est insidieux, quoi. C'est-à-dire que il y a le racisme d'État. Enfin, c'est-à-dire qu'actuellement, on a un gouvernement qui est raciste. On a Retailleau tient des propos racistes, mais comme l'a fait Darmanin, comme l'a fait Valls. Enfin, je veux dire, donc au plus haut au niveau de l'État, de toute façon, il y a une islamophobie, il y a des propos racistes, et c'est assumé, et ça fait marche-pied au Rassemblement national. Mais c'est aussi, il y a aussi l'islamophobie qui vient d'une défiance, mais qui est un impensé, en fait. Et par exemple, là, il y a un principal de collège qui a écrit un courrier à ses élèves en disant, pas d'absence pour l'Aïd. Et donc, parce que il y a des examens, il faut que vous soyez là, etc. Et on sortait de trois jours fériés successifs, week-ends successifs, ouais, à Rennes. Ouais, ouais. À la BACNA. Alors, il s'est excusé platement après, mais, hein, mais n'empêche que, et en plus, et donc je me suis dit, mais ça se trouve, le gars, il se considère comme, je sais pas, de gauche ou quoi. Donc, il y a une espèce de truc complètement ancré, un impensé. Et donc, il a pas pensé qu'en fait, c'est quelque part son courrier, enfin, ça pouvait être considéré comme une provocation, islamophobe, enfin, voilà. Et on sortait, et c'est dingue de pas y penser, alors qu'on sortait de trois week-ends fériés, de jours, de calendrier, basé sur la religion catholique, quoi, enfin, voilà. Et là, mon fils est en Allemagne, et dans l'échange, il y a deux jeunes allemandes qui ont pas pu faire l'échange, mais pourquoi? Bah, parce qu'en Allemagne, en fait, le voile, il est toléré, en fait. Et puis, les jours fériés, d'ailleurs, c'est chaque, en fonction de sa religion, on prend les jours fériés qui correspondent à la religion qu'on pratique. Voilà. Et ben, les deux jeunes collégiennes, elles sont pas venues en France parce qu'elles savaient qu'en France, on leur demanderait effectivement de retirer leur voile. Ouais. Et donc, elles se sont privées du voyage scolaire. Et voilà. Et c'est ça, en fait. C'est ce qui me frappe. Et, alors, la laïcité, oui, moi, je suis athée. Enfin, je veux dire, OK. Donc le droit de ne pas croire, ouais, ok, bien sûr, et de défendre, il faut que tout le monde cohabite et donc il faut des règles. Mais c'est vrai que on a, et ça c'est pas politiquement correct en France actuellement de dire que cette laïcité elle est asymétrique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne garantit pas tout à fait les mêmes droits aux uns et aux autres et que notamment les musulmans, voilà, on ne garantit pas aussi le respect et l'intégrité, enfin voilà, de la pratique religieuse des personnes musulmanes. Donc c'est aussi, c'est pour ça qu'il faut aussi l'éducation populaire. C'est pour ça qu'il faut aussi lutter contre les discriminations. C'est le plan, c'est l'observatoire des discriminations. On n'était pas précis là, c'est la politique locale. Mais là, le truc, et puis il va falloir d'autant plus le faire qu'on est en milieu hostile. C'est-à-dire qu'au niveau national, bah oui, c'est pas du tout les orientations prises. Donc là, il va falloir serrer les rangs sur ces sujets-là, il va falloir être solidaire et ne rien lâcher sur les discriminations, sur le racisme. Il faut qu'on soit un territoire, il faut s'affirmer comme un territoire antiraciste. Voilà. Et ça se fait avec les associations, avec les collectifs, avec les habitants.
Je vais poursuivre avec l'extrême droite et la banalisation des discours d'extrême droite. Donc le discours suprémaciste et raciste de l'extrême droite est d'autant plus préoccupant, en tout cas c'est à ma titre personnel, qu'il s'est largement répandu dans la sphère médiatique et politique. Mais en réalité, ce phénomène se propage peut-être de manière encore plus insidieuse au sein de la population sur Internet, tout simplement. Récemment, un influenceur d'extrême droite, je citerai Papacito, a appelé ses abonnés à envisager, entre guillemets, une année blanche, durant laquelle il serait question de, entre guillemets, nettoyer la France, de ceux qu'il qualifie de, entre guillemets, remplaçants, tout en affirmant que les policiers finiraient par laisser faire, car selon lui, entre guillemets, ils sont d'extrême droite. La violence de ces propos est bien sûr inacceptable, hein. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de guillemets. Voilà. Donc on a une situation où les militantes et les militants sont considérés comme étant considérés comme d'extrême gauche sont également devenus des cibles à éliminer hein, dans ces propos. Et du coup, là on va faire un petit devoir d'analyse des termes. Qu'est-ce que représente en fait qui représente cette extrême gauche aujourd'hui mentionnée par certains partisans d'extrême droite? C'est qui? Comme ça on sait. C'est qui?
Je ne m'attendais pas à cette tournure de finale de question, honnêtement. Du coup, pour qui c'est qui représente l'extrême gauche, c'est ça?
Qui pourrait être ciblé,
ah,
enfin.
Pourrait être ciblé.
Je pense que c'est pas mal de prendre les choses par leur.
Le problème, c'est que je trouve qu'en fait.
Peut-être qu'ils sont plus rassembleurs que nous.
Il y a un truc que je trouve, genre l'extrême gauche, je ne suis même pas sûr que la LFI, c'est l'extrême gauche, qu'on soit d'accord. L'extrême gauche va encore. On est d'accord en fait.
Mais
pour un gars d'extrême droite, dès que tu n'es pas pour dès que tu n'es pas pour une nation qui doit se régénérer ou pour ce mythe de la population blanche qui va se remplacer ou dans les trucs d'incel, tu es de gauche. Du coup, je me dis que selon son point de vue, pour aller dans ton sens, je suis presque à me dire que Macron, si il dit qu'il va faire une réforme mais qu'il la fera jamais, il sera de gauche. Du coup, l'extrême gauche, elle commence. C'est tout le champ qui est pas OPS peut-être d'un point de vue de personnes de l'extrême droite. Mais moi j'aurais aimé revenir sur le truc de par rapport au racisme quand même et le truc de enfin comment dire. Le racisme c'est un système de domination qui a une histoire coloniale. Du coup.
On y vient après.
Non,
ça,
non, mais, je me permets juste de faire un détour et du coup comment l'extrême droite.
Comment le Front de Mer s'est positionné au niveau local?
Oui non mais ce que j'allais juste dire c'est que j'ai l'extrême droite, c'est la face la plus éclatante et pailletée de ça.
Oui.
Mais en fait, ça traverse tout le champ politique.
Bien sûr.
Du coup, c'est intéressant de s'intéresser à l'extrême droite qui prend de la place et qui gagne cette bataille culturelle avec les réseaux sociaux. Mais c'est intéressant de se dire que même si Jean-Marie Le Pen est mort, les idées de Jean-Marie Le Pen n'ont jamais autant pullulé autour de nous. Et que du coup, il y a une bataille culturelle à avoir, effectivement, sur les réseaux sociaux comme dans nos discussions avec les gens autour de nous. Il y a un enjeu sur ça, en fait. Et il y a un enjeu surtout à pas faire ce truc de dire que l'extrême droite, c'est le mal. Il faut faire un deuxième choix, le moins pire, face à l'extrême droite. Parce que, en fait, finalement, même en n'ayant pas l'extrême droite au pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gaël, les idées d'extrême droite sont au pouvoir. Et au-delà des extrêmes droites, l'État a une histoire coloniale, a un traitement colonial. Donc, qui est la droite, la gauche au pouvoir. La question, c'est quel rapport de force on crée pour imposer nos politiques.
Là, tu réponds pas à mes questions.
Là, je suis un peu parti loin, du coup. Mais juste, du coup, pour ce que tu me disais, concrètement, du coup, par rapport au Front de Mer, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on aide des gens, en fait, des gamins qui se font violoter dans le quartier, on les aide à entrer dans des démarches pour, retrouver un minimum de dignité, faire valoir leurs droits avec leurs parents. Ce qu'on fait, c'est que on propose l'année dernière, on avait proposé une discussion lors du mois décolonial proposé par Larar. On avait proposé une discussion avec Awaguet et Fatima Clervy, une discussion sur comment est-ce qu'on protège nos enfants.
Ah bah super.
C'est des trucs très concrets comme ça aussi. Mais bon, j'arrête de parler parce qu'apparemment je me suis emporté et que j'ai fait un hors sujet. Désolé. Bon, bref, désolé.
Ça veut dire que la question était. Non, parce que vraiment, j'aimerais bien que vous répondiez, vous. Parce que finalement, si on part du point de vue d'extrême droite, ces gens d'extrême gauche, eh ben, ça rassemblerait justement pas mal de gens. Et en gros, pour eux, il n'y a pas Europe Écologie des Verts, LFI, tout ça. Pff, Bah, finissez-moi tout ça, quoi. Et du coup, c'est un petit peu aussi marrant de voir à quel point, de l'extérieur, de leur point de vue, nos idées, en fait, se ressemblent. Pas mal. Mais la vraie question était, finalement, dites-moi, selon vous, qui sont ceux qu'on qualifie de grands remplaçants dans ces discours? Gaëlle.
Ben, il y a dans cette théorie, en fait, c'est ce qui qualifie de woke, d'islamo-gauchiste, fait, ça n'existe pas. En fait, c'est juste des personnes qui défendent des valeurs de gauche et écologiste.
Tu peux donner des catégories de personnes, par
exemple. Par exemple, le soulèvement de la terre, pour eux, c'est l'extrême gauche. Voilà.
Des catégories de personnes.
C'est-à-dire des personnes. Bah moi, je suis au soulèvement de la terre.
Oui, toi.
Donc je dois être. J'imagine que je suis d'extrême gauche.
Ouais.
Mais moi, quand je m'opposais à Notre-Dame-des-Landes, parce que j'étais à la région Bretagne, j'étais dans l'opposition, et je me faisais déjà traiter de terroriste. Alors pas éco-terroriste, ça n'existait pas encore. Ils l'ont inventé après. Mais terroriste déjà. Donc j'étais déjà d'extrême gauche. Enfin voilà. Donc en fait, l'extrême gauche, c'est tout ce qui s'oppose. Enfin voilà. Donc c'est nous tous. Enfin peut-être. J'imagine, puis qui pas.
C'est vrai qu'on a. Après, on a laissé aussi des gens être exceptionnalisés en France avec des lois d'exception. Les écologistes, finalement, de toute façon, la loi séparatisme, ça concerne toutes les associations. Donc, oui. C'est toujours la même chose. Quand on laisse, en fait, une partie de la population être impactée, et ça va être la même chose avec les personnes non nationales qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, etc., ou qui ont... pas le droit de vote, par exemple, aux élections locales, oui, qui était une promesse de la gauche aussi, dont on n'a pas parlé. Mais c'est des choses, soit des lois d'exception, des choses antidémocratiques qui vont se banaliser, en fait, à tout le champ social. Donc, et malheureusement, les écologistes, ils en font les frais violemment, quoi. Après, moi, je serais plus maintenant à se poser la question, quelle stratégie on adopte, parce qu'on a franchement, on a des fachos au gouvernement, quoi. C'est clair, tout le monde est d'accord. Donc, il y a des mouvements aussi aujourd'hui qui se montent pour dire qu'il faut une alliance à gauche, peut-être à la gauche du PS, je pense, dès les municipales, parce que après il sera trop tard. D'ailleurs, il s'appelle l'après. Donc même si ils sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont rien fait pour être là, mais en fait je trouve que cette question elle est quand même importante, que tout le monde doit se la poser, et que c'est aussi, je parlais d'espoir politique tout à l'heure, quand il y a union de plein de gens de gauche, ça c'est un espoir politique, en fait, pour les gens aussi. On le voit, tu parles avec n'importe qui, te demander avant les élections législatives, par exemple, le NFP, ça avait créé quand même un espoir. Après, ça va toujours être dans quelles circonstances se font ces alliances-là, qui va négocier quoi, et en fait, est-ce que ce dont les gens, et notamment les mouvements des quartiers populaires, la crainte, c'est que tes revendications, elles sont complètement noyées et diluées, parce que il faut ménager un petit peu toujours pour le confort des personnes qui sont plus dominantes dans ce champ politique. Qu'est-ce qui reste de ce que toi tu attends pour ton quartier, quoi? Ou pour les personnes étrangères, pour les personnes racisées, etc. Qu'est-ce qui va rester de ces négociations-là si on fait une alliance jusqu'à tout le champ politique avant le PS, quoi? Donc la question du rapport de force, elle est centrale. Et c'est pour ça qu'il faut, pour l'instant, pour moi, sur ce type d'organisation, il faut tenir bon et se renforcer jusqu'au bout pour pouvoir imposer un rapport de force qui soit efficace.
Mais bien sûr. Merci d'ailleurs, Marjolaine. Et, je le redis à tout le monde, hein, merci. Vous êtes là. Vous donnez à entendre aussi. Donc les gens, avec ou sans diplôme, il n'y a pas besoin de vraiment les avoir pour vous comprendre. Donc ça, c'est bien aussi. Donc Donc voilà, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse aussi entendre ce que vous avez à dire sur toutes ces thématiques. Hein. Il n'y a pas de piège, comme l'a dit Priscilla, l'Assemblée des quartiers, en tout cas la première, a mis 2 ans quand même à arriver vers un consensus, et surtout pour comprendre qu'on venait pas tous et toutes du même endroit, d'où la question blague sur qui est d'extrême gauche pour les gens d'extrême droite. On est beaucoup en fait dedans, donc peut-être ça serait le moment de s'organiser. Mais vous avez tout à l'heure répondu aux questions, notamment du racisme d'État, aussi aux violences policières. Évidemment, hein, les affaires se sont multipliées. Adama Traoré et le collectif Adama sont devenus des symboles de la lutte contre les violences policières, le racisme d'État. De nombreux collectifs sont également nés ailleurs, notamment dans la ville de Rennes. Donc tu l'as cité tout à l'heure, Marjolaine, Justice et Vérité pour Babacar Gaye, portée par sa sœur Awa. Du coup, toi, tu t'es aussi tout à l'heure positionné en tant que partie prenante d'une organisation qui s'engage auprès des victimes et leurs familles. Mais est-ce que, au niveau voilà, des autres syndics, vous aussi, tu en as parlé tout à l'heure, vous organisez des discussions, des discussions ouvertes, en tout cas, sur les thématiques du racisme pour les enfants et pour les parents. Et Myriam, Gaëlle, par exemple, au niveau d'Europe, enfin, au niveau des Verts, voilà, parce que tu n'arrêtes pas de me reprendre, au niveau des Verts, comment est-ce que ça se passe, la question des violences policières, et surtout comment est envisagé le potentiel accompagnement, c'est-à-dire quand on dit accompagnement, c'est qu'on a déjà dépassé la prise en considération de l'impact de ces violences pour les personnes qui en sont victimes. Vous êtes déjà positionné dessus?
Alors, tu dis les Verts, donc c'est le parti au niveau national, donc ça,
ah, mais du coup,
nous on travaille. Après, au niveau local,
tu dis confluence ou pas?
Non, mais si tu dis les Verts, est-ce que ça veut dire au niveau national? Est-ce que tu veux dire dans notre action locale? Parce qu'en fait, on est élu, donc en tant qu'élu, effectivement, on agit sur cette question. Donc il y a la question là, du plan de lutte contre les discriminations, et où il y a un focus mis sur les victimes, et donc justement sur la reconnaissance des victimes et l'accompagnement. Donc ça, c'est en train de se mettre en place.
Vous connaissez Awa, du coup?
Oui. Mais alors, c'est vraiment les discriminations au sens large, mais ça inclut la question aussi des discriminations liées aux contre-policiers, aux violences policières. Et ça, on se bat. Ça, c'est effectivement... ça, c'est un point de crispation aussi, parfois, avec nos collègues élus socialistes, clairement. C'est-à-dire qu'on se bat pour qu'ils en parlent, en fait, et pour que les mots soient posés. Alors, c'est pas facile. Hein. Tout à l'heure, on disait les lieux de pouvoir. En fait, quand on est élu, et même quand on est maire, c'est un lieu de pouvoir, mais c'est un pouvoir contraint. C'est un pouvoir... en ce moment, il y a le préfet. Tout est négocié avec le préfet, en fait. Il y a plein de politiques qui dépendent de l'État. Donc, si le préfet bloque tout, il se passe plus rien. Il ferme les robinets d'argent. Et puis, on peut plus faire de la rénovation urbaine, etc. Enfin, et puis, il y a la question du procureur de la République. Et puis, il y a le préfet sur la police, par exemple. Sur la police nationale, on n'a pas de pouvoir sur la police nationale.
Oui.
Mais par contre, dans la relation, et ça, je pense qu'il faut que ce soit plus assumé, c'est effectivement de poser cette question-là, de mettre ça en débat, et je pense que les municipales, ça sera une bonne occasion de poser la question des violences policières dans les quartiers, sur Rennes, et de comment nous, on se positionne ville par rapport à ça. Et comment on pose le problème avec la police, parce qu'effectivement, il y a des réunions, on travaille avec la police. Dans le cas du narcotrafic, il faut bien qu'on travaille avec la police.
Oui, mais
c'est,
bien sûr.
Voilà. Donc c'est comment on pose ce sujet-là. Puis après, sur la question, ça remonte beaucoup sur le volet éducation, parce que moi, je suis adjointe à l'éducation. Et donc, ça, c'est les parents, écoutez la parole, de ce que disent les parents. Et moi, je l'entends souvent, hein, cette question de les parents qui disent à leurs fils, notamment leurs garçons, ado, tu t'habilles pas en noir, tu mets de la couleur, tu t'habilles pas comme ci, comme ça, parce que je veux pas que t'aies de problème, je veux pas que tu te fasses contrôler. La question aussi des parents qui laissent pas du tout sortir les mômes parce que peur qu'ils tombent dans le trafic, etc. Donc, c'est évidemment, c'est tout ça qui remonte. Et ça, je pense que faut pas mettre sous le tapis, quoi. Faut juste, voilà. faut dire comment on accompagne les familles. Et ça, c'est aussi de l'accompagnement à la parentalité. Et ça, à la ville, on peut le faire. Il y a tout un volet accompagnement des parents, des familles, en lien avec l'école ou pas. Et il y a un ça s'appelle le projet de réussite éducative aussi. Hein, c'est des animateurs, animatrices du projet de réussite éducative qui font le lien souvent avec les familles. Et donc ça, c'est un outil pour pouvoir accompagner. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas assez assumé. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut être aux côtés des parents pour dénoncer ça. Et puis après, sur les discriminations, les violences discriminatoires, c'est de la formation, en fait, aussi. C'est des agents. Nous, on forme nos agents dans les écoles. Alors, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais on s'attelle, il y a plein de formations. Et la question de la lutte contre les discriminations, et contre le racisme, le sexisme, tout, on l'a inscrit dans la formation. Des animateurs, des animatrices, des ATSEM, des agents, enfin, de toutes les personnes qui travaillent au contact des enfants. Mais bon, il y a du monde hein, à former dans les écoles. Mais voilà, c'est un objectif qu'on s'est posé. Et on essaye de se donner les moyens. Quoi.
Bah, on a commencé un tout petit peu plus tard. Mais je vais vous redonner le principe. C'est que vous avez 30 minutes pour parler. C'est très important. C'est très, 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 très important. Parce que j'en suis sûre, vous direz des choses peut-être plus intéressantes que moi, sûrement, à vous tous. Et du coup, il y a encore quand même quelques thématiques qui peuvent être traversées. Et mais on arrive à ce moment fatidique. Du coup, je vous propose de choisir la thématique, la dernière thématique qui va être soumise aux invités. Et après, comme ça, vous avez votre temps de parole. Voilà. Du coup, il y avait à main levée. Ouais, vas-y. Après, les gens ils savent pas quand lever la main parce qu'ils ont donc violence interquartier, orientation scolaire, pouvoir d'achat, écologie populaire. Donc violence interquartier, votez 1. Orientation scolaire, votez 2. Vous faites soit 1, soit 2. Voilà, comme ça. Accès aux droits, voilà, 3. Pouvoir d'achat, 4. Écologie populaire, 5. Ah oui. Voilà. Donc on choisira. Bah vous avez gagné. C'est écologie populaire. Voilà. Et c'est pas mal. Bah écoutez. Hein. Écologie populaire. Oh waouh. Le 26 mai 2025, dans le cadre de la loi Duplot. L'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi visant à encadrer l'utilisation de certains pesticides qui ont été réintroduits. Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer toute cette affaire? Parce que toi, tu sais. Comme ça, les gens, ils comprennent.
La loi Duplon, c'est en fait le retour
pas trop longtemps.
Pardon, l'usage de certains pesticides qui étaient interdits jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est sous le poids des lobbies de l'agrobusiness, quoi, de la FNSEA notamment. Et on a, voilà, le gouvernement, on est gouverné par les lobbies en ce moment, il faut le savoir. C'est-à-dire que les lobbies n'ont jamais eu autant de poids en France qu'aujourd'hui. Et donc, voilà. Et donc, on a réintroduit l'usage des pesticides au mépris total de la santé publique, en fait. Parce qu'on connaît toutes les conséquences sanitaires des pesticides.
Et en quoi est-ce que la crise écologique a-t-elle des implications profondes et diverses pour l'avenir des quartiers populaires? Ça serait bien.
Bah, les premiers concernés, en fait, par le réchauffement climatique et par la pollution, c'est les plus précaires. En fait, par exemple, on a beaucoup débattu des ZFE. Alors, les ZFE, vous voyez ce que c'est. On a remis les ZFE.
On voit pas ce que c'est.
C'est les zones à faible émission, c'est-à-dire qu'effectivement, en centre-ville ou dans certains quartiers, vous avez une vieille voiture qui pollue et donc vous pouvez pas circuler. Enfin, vous pouvez circuler un petit peu, mais c'est une circulation limitée dans le temps parce que vous n'avez pas une, enfin vous avez une voiture qui pollue, etc. Et c'est vrai que comment ?
C'est pas une question de pollution, c'est une question de date de fabrication de la voiture.
Oui, de date de fabrication, mais en partant du principe, oui. Tout à fait, c'est autour de, ouais. Mais je résume. Et donc en fait, il y a eu tout un débat. Les ZFE c'était assez mal foutu. Et effectivement, comme c'est de l'écologie de droite, c'est-à-dire que c'est pas de l'écologie, enfin en gros c'est une mesure environnementale, mais qui a pas de cohérence, puis qui est pas accompagnée socialement. Donc moi si je m'y reconnais pas, c'est pas mon écologie ça. Mais comme C'est l'écologie sur les écologistes, voilà, comme dit Jeff. Et donc, du coup, ça faisait que c'était une mesure qui était vue comme punitive pour un certain nombre de personnes qui, effectivement, n'avaient pas d'argent pour s'acheter une voiture plus récente et donc pour pouvoir circuler. Même si ça a été beaucoup instrumentalisé, parce qu'en fait, il y avait comme la notion à Rennes, par exemple, si on l'avait mise en œuvre, il y avait la notion de petit rouleur, c'est-à-dire où de, soit on travaillait, on est livreur, par exemple, et ben, on avait l'autorisation, même si la voiture était pourrie, soit on avait une voiture toute vieille, mais c'est pas grave, parce que on a quand même, on a droit à quand même un petit quota pour aller en ville dans l'année quand même, donc pour rouler, et donc voilà. Mais en fait, ce débat, il est complètement, enfin, il a invisibilisé le fait que qui souffre le plus de la pollution dans les villes, de la pollution atmosphérique, c'est les plus pauvres en fait. Et ça, ça n'a pas été dit. Et ça, ça n'a pas été dit par LFI non plus, qui ont voté pour le retour, l'arrêt des ZFE. En fait, c'est comme aussi quand on avait eu le débat sur l'abaissement des vitesses sur la rocade. LFI, ici, s'était positionné contre. En fait, le truc, c'est que il faut dire quoi. La pollution, bah, la pollution, c'est la rocade, par exemple. La pollution, c'est en centre-ville, mais c'est aussi la rocade. Qui est le plus exposé dans les écoles à Rennes? C'est l'école Guyenne qui est le plus proche de la rocade, à Villejean. Et en fait... Et les familles les plus précaires, bah, elles n'ont pas les moyens de déménager quand le logement est vraiment trop pollué, que ce soit la qualité de l'air intérieur ou extérieur. Elles n'ont pas de maison de campagne pour partir le week-end ou en vacances pour prendre l'air, comme on dit. Quand on dit prendre l'air, bah, c'est quand on habite en milieu urbain, bah, oui, on va prendre l'air. Et donc, c'est aussi... En fait, la surmortalité liée à la pollution, alors là j'ai pris l'exemple de la pollution atmosphérique, mais c'est vrai pour plein d'autres choses, c'est vrai sur l'alimentation, oui. Voilà, la malbouffe et tout, c'est les plus précaires et c'est les plus pauvres. Donc il y a un espèce de truc qu'on oppose, enfin de toute façon, je trouve ça complètement démago d'opposer l'intérêt des plus précaires et la question écologique. Mais c'est souvent pratiqué. C'est comme l'histoire du barbecue, vous savez, que Fabien Roussel et le Parti communiste qui vous explique que mais non, la viande, faut qu'on laisse les gens manger de la viande comme mais non, mais c'était pas le propos. En fait, c'est juste qu'en fait les gens mangent mal, trop de viande et que trop de viande, on sait que bah c'est des maladies cardiovasculaires et c'est de la mortalité, on meurt plus tôt. Voilà, c'est tout. On meurt plus tôt. Faut quand même aussi, faut quand même le dire. Et les pesticides, bah, qui est exposé? Alors, à Rennes, c'est double peine. On a la pollution de la voiture et on est très exposé aux pesticides. Faut le savoir.
En Bretagne.
À Rennes. Jusqu'au cœur du Tabor, les prélèvements, quand on fait des prélèvements, on a un taux de pesticides ultra élevé. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah, moi, je travaille dessus parce que j'essaie de comprendre pourquoi. Il y a une explosion des cas des troubles du comportement et de l'autisme à Rennes. Alors, quel lien, comment, ça reste, il faudrait une vraie étude épidémiologique, en fait, pour savoir. Mmh. Mais ce que je constate, c'est que... Non, parce que... Non, j'ai un fils autiste, donc ça me dérange pas d'en parler. Non, c'est pas ça.
Non,
c'est pas validiste. Parce que sur le champ de l'autisme, il y a en plus les troubles du spectre autistique. Il y en a tout un spectre. Et donc c'est comme quand on dit effectivement, on sait que les pesticides c'est lié à des cancers pédiatriques. Enfin, à un moment aussi, je pense qu'il.
Vous n'allez pas prendre le débat à vous deux.
Les
hein.
pesticides.
Bah, c'est si. Moi qui ai le.
Bah, ça a un impact sur la santé humaine en fait. Mais en fait, donc l'idée, c'est de comprendre et c'est d'alerter et de dire, mais en fait, ça a un impact et ça a un impact très concret sur la vie des gens au quotidien. Et là où ça croise, on dit bah les discriminations, les inégalités, elles se cumulent. Et en fait, bah quand on a un enfant malade ou c'est pas la même chose, enfin ou un enfant qui a un trouble du spectre autistique et qu'en plus on est en très très grande précarité, qu'on est femme, foyer monoparental. Moi, je connais des mères aussi qui ont un enfant, deux enfants qui sont en situation de handicap et qui assurent tout seul parce que de toute façon, c'est quand il y a un handicap qui survient dans une famille ou dans souvent le couple, il y a rupture. L'homme s'en va, c'est un peu le schéma, mais souvent, et la femme se retrouve seule à assumer l'enfant. Ça, c'est un petit peu malheureusement, c'est le schéma classique. C'est vrai aussi pour le cancer du sein. Enfin, on a fait des études. Une femme qui a un cancer du sein a plus de probabilité d'être célibataire, de se retrouver célibataire, qu'une femme qui est en bonne santé. Enfin, voilà. Donc, c'est double peine. Ce que je veux dire, c'est que ces questions-là, non seulement c'est une question de santé, ça tue le vivant. Enfin, plus la pollution. les pesticides, ça tue la planète, ça tue la biodiversité, ça va nous empêcher de vivre sûrement correctement les années qui viennent.
Mais et ça avec des conséquences immédiates, directes envers
et notamment pour sur les plus précaires, parce qu'en plus par-dessus se cumule la question des inégalités sociales, de l'accès aux soins, du soutien familial, du soutien institutionnel, etc.
Justement, il y a eu une petite LFI du coup. LFI,
je défends pas le LFI. Mais je pense
elle est pas LFI, parce que elle a montré du doigt Gaëlle, elle a montré.
Après je pense enfin pour comprendre leur logique.
Les reines communes.
Hein. Non, moi ce que je dirais en tant enfin ouais. Habitante aussi qui est enfin je pense comme tout le monde assez alertée et très inquiet sur la situation écologique, c'est juste comment tu mets en place en fait si tu as des mesures pour l'écologie, comment tu les mets en place. Donc je pense qu'ils ont été critiques sur le fait que tu vas interdire des vieilles bagnoles, mais en fait qui a des vieilles bagnoles? Moi j'ai pas de bagnole, alors je suis LFI ou pas, vous avez rien à me reprocher. mais si j'avais plein d'argent, peut-être que j'aurais une voiture, hein. Moi j'adore le vélo, je trouve ça hyper, je trouve que le vélo c'est hyper émancipateur en fait. Et j'ai organisé aussi, avec sans doute l'aide de la ville, des ateliers pour que tout le monde apprenne à faire du vélo dans le quartier. Ouais. On est plein à l'avoir fait. Je suis pas là pour dire que tout ce que font les Verts et surtout sur l'écologie, c'est pourri. C'est pas du tout.
Mais c'était surtout de.
Mais je comprends le.
D'avoir ce lien entre.
En fait, le lien, et qu'on dit écologie populaire, c'est quelle place tu donnes en fait aux classes populaires aussi pour s'exprimer. Moi, je me rappelle juste d'un débat. T'étais là, je pense. C'était. Il y a eu une concertation sur le projet urbain une fois. Il n'y en a pas eu beaucoup de toute façon. Au triangle avec une élue, puis enfin plusieurs élus et puis des femmes du quartier. Bon, je la fais. Bref, en gros, il y avait tout un truc sur le transport, qu'il faut favoriser les transports doux, etc. Et puis, il parlait de faire payer les parkings 3 euros par mois. Tu vois, tu t'en rappelles ? C'est un sketch, c'est cultissime ce débat. Mais en fait, t'avais toutes les mamans qui étaient à côté, qui commençaient à péter un câble parce que déjà, en fait, les personnes dans les élus, en fait, qui étaient là, se sont pas rendu compte que 3 euros par mois, c'est beaucoup. Parce que c'est 3 euros par mois pour, je sais pas, la dernière fois, c'était quoi, des médiateurs de nuit, machin. En fait, dans les HLM, on nous demande tous les mois, on nous demande de rajouter, voilà. Donc, et avec l'argument, c'est pour l'écologie, machin. Donc finalement, le message, il est mal passé et t'as une dame qui était à côté. T'as une dame qui disait, moi j'ai 4 enfants, je vais pas aller faire mes courses en vélo. Donc après c'est, je pense que il y a certaines postures aussi qui doivent se rapprocher vraiment des habitants, voir c'est quoi leur frein tout simplement à faire du vélo. Où je peux parler des machins, le dispositif Cities là, c'est super en fait, ouais. Mais c'est pas adapté. Franchement c'est pour des gens qui travaillent et du coup eux ils vont avoir une voiture pour eux c'est pas très cher en plus, ouais. Et du coup ils ont pas besoin d'avoir leur voiture personnelle. Vous voyez ce que c'est City, c'est de l'autopartage financé par Rennes Métropole quand même. Et donc la question de l'écologie populaire, je pense ça par exemple c'est vraiment essayer de mettre autour de la table aussi des gens qui seraient intéressés par ces dispositifs mais qui peuvent pas y avoir accès. Et si je parle désolé, je suis obligée de le dire. Dans notre tour, par exemple, on est. Exactement. Ouais, le message est déjà passé, je pense. Mais c'est un truc. En fait, les gens, ils en rigolent. J'ai l'impression qu'on se moque de moi et qu'on me méprise en fait. Les locaux vélos, pardon.
Il y a pas de local.
Il y a un local, mais on est. En fait, je te jure, les vélos des gamins sont entassés ça. Et on me. Enfin, en fait, moi, je ressens du mépris des fois quand je parle de ça. Alors que, aujourd'hui, concrètement, je peux pas acheter un vélo à ma fille parce que je vais pas le mettre dans ce bazar, en fait, et je sais pas où le mettre. Et c'est censé être local, vélo, poussette, etc. Donc ça, c'est pas que, ça repose pas tout sur, sur la métropole, etc. C'est les HLM aussi qui mettent leurs priorités et qui nous chargent pour des trucs, des fois on comprend pas, et qui font pas aussi leur travail. Franchement, il y a beaucoup. D'ailleurs, je pense que l'Assemblée des quartiers, les prochains débats pourraient être sur les logements sociaux, parce qu'il y a un film qui a été fait à Montpellier, la bataille du petit bar, et qui doit être diffusé. Donc, je sais qu'à Rennes Sud, on était plusieurs à être très intéressés pour le diffuser.
Vous, chez vous la prochaine. Voilà, c'est décidé.
Mais ça n'empêche pas que quand je vois des scores. enfin, franchement catastrophique aux élections européennes pour les écologistes. Moi, ça m'inquiète aussi.
Bien sûr.
Ça m'inquiète vraiment, en fait, parce que ça dit quand même quelque chose sur, sur l'écologie et le... Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Mais bien sûr, c'est pour, mais c'est pour ça que, c'est pour ça que les écologistes, ils font partie aussi de tout ce schéma de réflexion, etc. C'est, on est quand même au cœur d'un sujet qui nous, enfin, qui va nous impacter et qui nous impacte fortement. Donc, évidemment, on est en train de réfléchir sur ça ensemble. Évidemment, évidemment. Donc, j'avoue, est-ce que vous voulez, prendre la parole. Prenez la parole, les gens. C'est votre tour. Ouais, voilà, c'est ton tour. C'est bien pour que... Ouais, si ça ne te gêne pas, parce que vu que ça sera enregistré et que comme ça, les auditeurs, ils pourront entendre ta voix. Mais viens ici, c'est bien. Non, mais je t'attends. Voilà.
Donc, comme vous voulez.
Oui, en fait.
Donc, je mets là. Non, bah du coup, bah moi je suis Alex, en fait je suis de la France Insoumise et de Rennes Commune, voilà. Mais on parlera de la question politique après peut-être. Ah bon, bref. Mais voilà, sur l'écologie populaire, bon, typiquement, nous on a fait un événement avec Rennes Commune sur la question de la gentrification, où il y a quand même en fait ce sujet qui est venu un peu en profondeur après sur l'écologie populaire, c'est qu'il y a un lien en fait très clair où l'écologie punitive ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le fait de dire aux gens « Bon, vous avez plus le droit de venir avec votre voiture en centre-ville, vous avez plus le droit de faire ci, de faire ça », c'est une... Voilà, au bout d'un moment, il y a quand même, en fait, il y a un ressentiment de punition, de sanction, de châtiment, même des fois, parfois, qui fait que il y a une réticence. Et culturellement, en fait, derrière, on parlait de la... qui évoquait la bataille culturelle. En fait, pour que ce soit acceptable, pour que ces politiques écologistes et volontaristes, en fait, même sur le plan des services publics, soient acceptées, il faut que culturellement ça parle. Et je pense que la question culturelle, en fait, va devenir centrale. Et il faut lier, en fait, les questions d'écologie aussi à des questions très pratiques. La question, en fait, simplement, voilà, des locaux dans les bâtiments, bah ça, voilà, tout de suite, c'est une question aussi de pratique dans les bâtiments que tout le monde, qu'on a tous, quoi. Et toutes, et que en fait, qui n'est pas assez mise, qui n'est pas assez en fait portée. Donc typiquement, déjà, il faut en fait déjà avoir les infrastructures, avoir les services publics nécessaires dans les quartiers populaires. Alors pour le quartier du Blône, ça a été fait. Enfin, le travail est en train d'être fait. Et ouais, en effet, là-dessus, la majorité municipale, vous avez fait le travail. Et notamment, on va dire, il y a une nouvelle poste, il y a une nouvelle place qui permet notamment aux enfants de jouer et faire du vélo, en l'occurrence. Mais il y a encore beaucoup de choses en fait à faire pour justement permettre en fait cette politique écologiste. Qui pour l'instant est uniquement en fait typiquement sur les EFE où c'est hyper caricatural en plus comment ça a été présenté pas par vous hein, non mais par je parle par à la fois ELV par les macronistes aussi ça a été présenté de façon caricaturale et alors qu'en fait c'est ça l'objectif au fond on est d'accord. Au fond, on est d'accord que, avoir une vieille voiture et c'est pas ce qui est souhaitable, voilà, pour des tas de raisons, santé notamment. Après, sur la question de la France insoumise ou, enfin, avec Rennes Commune, qui, je sais pas si vous connaissez un petit peu ici un peu le groupe, où c'est un groupe qui a été créé à l'initiative d'Ulysse Rabaté et pas mal notamment de personnes qui ensuite se sont ralliées à ce groupe pour aussi porter à la fois la voix des quartiers populaires et pour construire un projet municipal qui a un sens d'union, de rassemblement, on va dire, avec la gauche, avec des gros guillemets, mais justement en définissant un peu plus clairement les limites qu'on posait à cette question de la gauche. Et actuellement, la France Insoumise locale n'est pas en mesure de pouvoir mener ce programme de rupture. Non pas parce qu'ils ne voudraient pas, ça j'en sais rien, on peut pas faire de la psychologie en rentrant dans la tête des gens, mais par contre en ayant un ancrage, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que la France Insoumise locale n'a pas l'ancrage nécessaire pour pouvoir porter ce projet municipal. Voilà. Très clairement. Ouais, non mais je vais...
Merci beaucoup. En plus, une petite précision sur projet de Rennes Commune et tout. J'ai juste un petit appel à faire qui n'a rien à voir avec vos prises de parole. C'est que l'atelier prise de parole, justement, commence là, avec Romane de Street Press. Du coup, ceux qui souhaiteraient s'initier à prendre la parole en public, défier des politiques aussi, c'est pas mal, tout en restant soi-même. N'hésitez pas à y aller pour et du coup le cas pratique sera l'animation de la deuxième table ronde. Je laisse la parole.
Bon, je vais peut-être quand même rappeler le fait que le Front de Mer, on est sur l'écologie populaire à la base quand même. Du coup, ouais, ça pourrait être intéressant.
C'était évident pour moi, mais.
Mais bon, en plus je suis le seul mec, donc j'essaie de pas prendre trop de place. En vrai, c'est intéressant. Ouais. L'écoute active, ça fait du bien. Juste deux mots parce qu'il nous reste très peu de temps. C'est juste l'écologie populaire, elle est portée par les fondatrices des Fronts de Mer par rapport à la question de l'alternative végétarienne à la cantine, truc très concret. Et j'aimerais juste rajouter le truc que je pense que l'écologie populaire, ça marche quand non seulement les classes populaires sont mises dans le processus, mais même quand ça part dès le. La preuve, ce que tu as dit très justement, Marjolaine, genre les locales à vélo, on en parle en fait. C'est pas des voitures électriques qu'on veut en plus, parce que si, et je vais finir, il y a aussi ce truc là, c'est, je pense qu'il y a un enjeu de faire du lien, de partir de ce qui se passe dans les quartiers, de partir d'initiatives diverses. Je suis en train de fixer les dingueries de la terre parce que c'est littéralement l'enjeu des dingueries de la terre, l'écologie populaire. Et je pense aussi à peut-être un petit détour juste sur l'international, genre l'écologie populaire elle doit pas être coloniale du coup, genre du coup le coltan au Congo on va éviter quoi. On va éviter de participer à une écologie qui, en fait, n'implique pas un projet de transformation sociale et politique, en fait, et qui part des luttes, des masses, du bas. Et il y a déjà des trucs qui se passent, en fait. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on se coordonne et on est déjà un peu dedans. Mais voilà. Je voulais juste dire ça. Je parle du Congo par rapport au fait que le coltan, enfin, il n'y a pas que ça, hein, nos smartphones, nos ordinateurs. De toute façon, notre confort en Occident est un confort teinté de sang, on le sait tous. Mais c'est bien, au-delà de savoir, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une autre manière.
Une réelle alternative.
Habiter le monde autrement.
Habiter le monde. Et,
on a une remarque.
On a quelqu'un du public, je ne sais pas qui c'est cette personne, vous voyez la sortir, s'il vous plaît, qui veut prendre la parole. Avant ça, il y a Gaëlle qui souhaite un droit de réponse.
Bon droit de réponse, juste un petit. les mots, parce que. Mais il y a des choses que je peux partager après. Je préférais qu'on partage les constats, on les partage, et après qu'on partage un peu les freins, les enjeux, genre pourquoi les logements sociaux sont. C'est comme ça, pourquoi on manque de locaux à vélo, on manque d'argent. Pourquoi on manque d'argent, politique nationale aussi, etc. Le temps que ça prend pour le temps que ça prend aussi pour au fil de la rénovation pour faire des nouveaux locaux. Voilà. ZFE, nous la façon dont ça a été mis en place, c'était nul. Enfin, je veux dire, on adhérait pas. Mais on aurait juste préféré que finalement LFI, par exemple, se batte avec nous pour justement pour que ça se passe autrement et pour. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte de toute façon avec le gouvernement qu'on a, c'était compliqué. Mais voilà, et juste l'union. La convergence des luttes et tout, ça commence par les mots. Et donc, moi, j'aimerais bien que la gauche n'utilise plus le terme d'écologie punitive, s'il vous plaît, quoi. Ça, c'est les mots de la droite et de l'extrême droite. Écologie punitive, c'est vraiment la droite et l'extrême droite qui nous la sert, mais tout le temps. Mais en fait, l'écologie punitive, c'est ce que je disais, c'est d'être malade, en fait, de la pollution. C'est d'être malade du cadmium, c'est d'être malade de c'est de pas pouvoir accéder aux services publics locaux, de pas avoir le droit à la santé, à l'éducation, etc. Et donc, attention, parce que c'est de la punition. En fait, elle est là, la punition. Donc juste ce mot, je trouve ça, enfin j'aimerais bien, vous pouvez être critique, ouais, mais le mot d'écologie punitive, en fait, je trouve qu'il est trop, trop marqué, il est malhonnête en fait, et il est utilisé par la droite et l'extrême droite.
Okay. Léo me disait à l'oreillette ce matin, il a entendu à la radio le terme d'économie punitive. Pour contrebalancer. Moi, je voulais juste partager un petit point quand même. Alors, je suis sortie un bon moment, peut-être que vous en avez parlé. Steve, t'en as peut-être parlé, mais de Verdragon. Voilà, quand même, ce qui est un exemple qui est une de. Je reprends ma casquette Front de Mer France, mais en fait, c'est quand même une grosse fierté d'avoir pu gérer la première maison de l'écologie populaire en France. 973 mètres carrés à Bagnolet, en bail précaire de 3 ans, arraché par la sueur, la lutte, tout à la mairie PS de Bagnolet. et qui a quand même permis d'expérimenter plein de choses, des conférences, des événements, des ateliers, des chasses au trésor autour de One Piece dans les quartiers, une AMAP, des cours de danse, une expo avec Rossé sur les musiques de nos luttes et tout ça. Plein de choses. Et tout ça pour dire que ça a été les premières entraves par rapport à ce lieu-là. Elles sont pas venues de la droite, elles sont venues de la gauche. Je ne citerai pas les partis, ça sert à rien. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, quand on a quand même eu un secrétaire national d'un parti de gauche qui a osé dire qu'on ne va pas donner 1000 mètres carrés à des femmes pour qu'elles sirotent du thé à la menthe. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. C'est d'une violence incroyable. Vraiment. Et c'est sur une vidéo, on peut voir, enfin voilà. En fait, je vous donne juste un exemple parce que cette phrase, dans le siroter à la menthe, déjà, ça veut dire que les femmes ne peuvent rien faire d'autre que de siroter. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être un sujet politique, elles ne peuvent pas avoir des luttes. Et en plus, leur accorder un lieu, c'est vraiment scandaleux. Et alors après, il va y avoir les mots, l'entrisme et tout ça, mais nous cultivons l'entrisme très clairement. Le piratage, le hacking, peu importe le terme. Voilà. Donc et cette expérience-là, j'espère qu'elle fera un jour l'objet d'un livre parce qu'il y a eu tellement de choses et notamment des coopérations avec des personnes qui étaient très loin de nous géographiquement. Je pense à Malcolm Ferdinand sur le chlordécone dans les Outre-mer, à Vietnam Dioxine. Et ça a donné aussi lieu à des objets littéraires en fait, comme le manifeste pour une écologie antiraciste qui est sorti il y a 2 semaines avec Myriam Bafou justement, Malcolm Ferdinand, tout ça. Et tout ça pour dire que, justement, l'entrisme, cultivons-le à tous les niveaux, donc dans les collectivités, en tant que personne racisée, en tant que donc agent de service public, en tant qu'élu, en tant que professionnel de l'éducation nationale, en tant qu'avocat, en tant que magistrat. Enfin, voilà. Et c'est comment, après, on s'organise ensemble pour, justement, nous donner de la force, nous entraider et tout, et porter nos projets. Et donc, moi, j'ai un désir, en fait, pour Rennes. Il y a plein de projets qu'on a à faire, mais j'aimerais vraiment qu'on ait une maison de l'écologie populaire à Rennes, mais qui ne soit absolument pas gérée par la mairie ou la métropole. Donc, on va nous répondre. Il y a déjà la MCE, la maison de consommation de l'environnement. Je suis désolée, elle ne met jamais un orteil dans les quartiers populaires. Je le dis très clairement. Et elle est extrêmement subventionnée et elle a plus de 12 ETP. Nous, Front de Mer, on n'a pas un seul argent public. On n'en veut pas. Et on a 0,25 ETP pour Rennes seulement.
Mais là tu poses la question de l'autonomie, en fait,
de l'autonomie, l'écologie.
Dans les quartiers. Et c'est bien sûr un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé. Mais
qui
c'est
va être abordé.
Un quartier comme le Blône, moi je suis désolée, ouais. Parce qu'il faut que...
Non, pas aujourd'hui, prochaine. Mais vous l'avez dit très justement, le fait de l'écologie populaire, ça parle des premiers et des premières concernées. Et après, on crée des alliances pour monter en puissance et que les choses s'organisent. Financement public, tout ce qu'on veut, enfin bref. Mais vraiment, il faut qu'on ait un lieu à Rennes qui soit approprié et porté par les organisations et que ça ne soit pas de l'écologie blanche, s'il vous plaît, quoi.
Amen.
Je pense qu'il y a.
Est-ce qu'il y a,
aussi, il y a Hassan
Jésus
qui vient d'arriver
de gauche.
Ouais. Non, mais toi, tu m'as déjà dit, Hassan, au Blône, il faut une maison des habitants, par exemple. Quand on parle d'autonomie dans les quartiers, c'est. On a Myriam qui est là aussi, qui est du Blône. Et on a un vrai problème. Et on est mis. Toutes les associations, en fait, sont mises en concurrence sur des.
Pour
locaux,
d'avoir des locaux.
Parce qu'il y a des renouvellements urbains aussi qui se font sans les habitants. Et en fait, il y a des tensions énormes, en fait, qui en découlent, où on va se retrouver les uns contre les autres, alors que, à la base, c'était pas entre nous le problème.
Oui,
en fait.
Bien sûr.
Et donc, il faut vraiment garder en tête que c'est des politiques qui nous mettent dans ces situations. Et vraiment, la question de l'autonomie au Blône, ça fait, tout le monde sait que c'est un réel problème, quoi. Moi, je suis désolée, je dois vraiment.
Non, bien sûr.
Le truc au triangle, je dois faire une interview.
Je te remercie beaucoup, Marjolaine. Vous pouvez la remercier. Elle a fait le déplacement quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler, qui n'ont pas parlé, qui veulent prendre la main? Non, mais vous allez parler en privé pour vous répondre comme ça. Non, mais parce que du coup, aller-retour. S'il y a quelqu'un d'autre. Autour d'un bon goûter. Non. Je me permets, elle a jamais dit que tu parlais comme l'extrême droite. Elle a dit que ça serait bien que les
que en fait, pour entrer dans une collaboration, il y a certains termes et usages qui heurtent en tout cas les gens, voilà. Et voilà, exactement, notamment l'utilisation de ce terme qui, pouf, elle nous l'apprend, moi je le savais pas, qui était utilisé notamment par les personnes et les, voilà, d'extrême droite. Ouais, on n'a pas dit que c'était d'extrême droite. Voilà. Voilà. Tout ça pour prendre. En plus, si ça devait prendre un temps de parole en plus pour quelqu'un, quelqu'un veut prendre la parole ? Est-ce qu'il y a une. Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre la parole ? Voilà. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Un, deux, trois, quatre. Bon.
Je crois que.
Quelqu'un ? Non ? Non, non ? Oui, oui, il a dit oui. Il a dit oui. Oh, il a dit oui. C'est Hassan. Viens ici, Hassan. Oui. Bah oui, non, mais tu.
Merci. Mais en plus, j'étais pas là dès le début. Mais juste ce que j'ai entendu, en fin de compte, j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais la question d'une maison de la santé populaire, moi, ça m'interpelle. Je vais prendre sur la question de la santé, de l'environnement. Par exemple, sur le quartier du Blône, il y a un bâtiment qui est formidable, qui est très beau, sur 5 étages, qui s'appelle le Quadri. C'est formidable. Il y a toutes les institutions de l'ESS. Et si vous prenez les gens qui y travaillent, à 99% font partie du quartier. Et si vous prenez les habitants du quartier, s'ils passent, ils ne savent même pas ce que c'est que l'ESS. Et ce qui m'horripile, et ça fait 50 ans que ça dure, c'est qu'il y a tout le temps des gens, je ne citerai pas, mais qui ont des compétences en ingénierie sociale pour faire des super projets. Et c'est eux qui prennent les deniers publics et qui vont s'adresser aux gens du quartier. Et en fin de compte, on maintient les habitants du quartier dans une certaine dépendance. En fin de compte. On ne veut pas qu'ils soient autonomes. Et à chaque fois qu'il y a une dynamique d'autonomie, elle est tout le temps freinée. Et ça me questionne, je ne sais pas, sur le sens de qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine. Quant à la concurrence entre les différentes associations, elle existe. Elle existe surtout sur les associations qui ont, en fin de compte, qui sont rattrapées, qui ont des postes. Nous, on n'est que des bénévoles et c'est beaucoup plus facile. C'est quand il y a des postes et c'est là que les gens se perdent. Et puis, il y a une question de vision. Tu étais là, on a parlé. Une fois, on était peut-être 5 ou 6 associations et j'ai dit une chose très simple qui est qu'on doit respecter les habitants dans leur dignité, dans ce qu'ils sont entièrement et on n'a pas à juger ou à définir ce qu'ils sont et que la culture, qu'elle soit bretonne, gabonaise ou autre, de l'habitant, on doit la prendre non pas comme une culture exotique. C'est-à-dire, j'aime bien le couscous, j'aime bien le rail et je danse, mais dès que je rentre dans ton identité, je l'exclus, mais comme une ressource, comme un potentiel. Et c'est des associations du quartier, tu étais là, et la majorité se sont opposées. Non, ils me percevaient comme quelqu'un qui enferme les habitants, et ça me questionne, c'est des habitants, c'est des associations qui, soi-disant, luttent pour les habitants, et ils ne sont même pas en capacité d'accepter les habitants tels qu'ils sont. Donc, je ne sais pas, il y a vraiment à changer dans nos têtes. Et comment respecter l'individu tel qu'il est. Et le quartier du Blône, alors je connais, mais Rennes, quand même, a une histoire associative. Il y a une énergie. Les habitants sont formidables, en fin de compte. Et je suis naïf, mais il y a juste à les respecter, les valoriser. Et il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut changer cette dynamique où on bloque les gens et on les enferme dans ce qu'ils ne sont pas, en fin de compte. C'est juste un témoignage.
Non, c'est bien. Merci à toi. Non, mais merci Hassan, merci pour tout, merci pour ta prise de parole, merci pour le goûter, merci. Non, merci de rappeler quand même un des objectifs qu'on a de se réunir ici. On va s'arrêter bientôt pour goûter les merveilleuses choses que vous avez fait, pour faire un break aussi, évidemment. Voilà, là vous êtes timide, mais ça c'est la première fois, c'est normal. Voilà. Voilà, j'espère qu'à un moment ça y aura la queue pour prendre la parole et tout ça. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été soulevées ici. Donc une des premières qui est comment quels sont les outils, quelles choses mettre en place pour que ces assemblées, pour que les quartiers populaires et les habitants ne soient pas instrumentalisés par les partis politiques, par les organisations en vue de prétentions électorales. Donc là, vous avez réellement tous et toutes à vos cerveaux réunis l'occasion, bah, voilà, de poser vos avis en fait sur ce tableau, sur les choses en fait qui vont faire aussi, qui vont constituer le bilan, parce que ça c'est le nerf de la guerre, on va dire. Comment en fait ne pas être utilisé pour on va dire poser les bases d'une construction, d'une co-construction qui fera que ce qu'on construit, bah, va pas nous être enlevé. Et je pense que ça donne beaucoup plus de courage et d'envie d'y aller dans ces termes-là. Il y avait une autre chose qui a été soulevée, c'était peut-être de se dire aussi être regardante à combien de temps mettent les organisations politiques à rejoindre un combat. Au bout de combien de temps, en fait, qu'un combat devient reconnu, repris, du coup, réutiliser aussi, récupérer. Donc ça, c'est, voilà, vous pouvez bien sûr vous réunir, enfin, et en parler, et vraiment que ça soit, on va dire, une base commune de réflexion. La troisième chose, c'est ce qui a été évoqué aujourd'hui aussi, c'est la difficulté pour les des organisations ou on va dire des initiatives citoyennes qui viennent des habitants à ne pas être entravées. Et souvent que les entraves, elles viennent de la gauche. Et du coup, comment, on va dire, mettre en place des initiatives qui partent de nous et qui, en fait, sont portées par nous aussi. Et en tout cas, on va dire, questionner la gauche sur ces choses-là. Potentiellement, là, j'ai l'évocation de plusieurs maisons, plusieurs espaces qui soient citoyens, portés par les habitantes et pas, on va dire... par des personnes qui n'habitent pas le quartier. Et finalement, il y a aussi, pour résumer, la prochaine assemblée des quartiers populaires qui se tiendrait au Blône. Donc voilà, ça c'est avec bien sûr un autre sujet. Voilà, ce qui a été évoqué, pourquoi pas, les logements. Dans quel état sont ces logements ? Je vous laisse faire le tour ici, mais quelques-uns, c'est pas beau à voir. Et bon, quelques-uns, ça a été refait aussi. Hein. Je suis parlé à un monsieur hier qui m'a dit qu'il était très heureux des logements qui sont en face du métro, très bien refaits. Donc, il y a aussi du bon et du moins bon, évidemment. Et tout ça, c'était vraiment pour vous dire que l'objectif, ça va être assez long, mais c'est d'arriver à trouver ensemble des petites solutions, des choses communes que, voilà... Et que si des gens qui souhaitent nous représenter, ils sont obligés de signer quelque chose ou j'en sais rien, mais en tout cas, vous partez pas d'ici sans avoir signé un engagement et que ça soit continu, en tout cas. Voilà, je le redis, c'est enregistré, donc... voilà, super pour moi. Mais en tout cas, que ça soit signé un papier ou pas, mais c'est comment aussi... à tous, tout ensemble, on rejoigne aussi, on puisse se former, s'auto-former, à notre tour, prendre les listes électorales, à notre tour, voilà, porter nos voix un petit peu au-delà de nos quartiers et que le paysage politique en France, en fait, nous ressemble davantage, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'être venu.
R22, tout le monde. Bonjour. Du coup, merci pour l'invitation. Nous, on va faire une table ronde sur les amendes forfaitaires délictuelles. Enfin, en tout cas, c'était l'intitulé, qui est une question assez technique, finalement. Donc, on s'est dit d'élargir le débat plutôt aussi sur la répression dans les quartiers populaires, avec cette problématique qui traverse souvent les discours de gauche quand on parle des quartiers populaires, qui est comment est-ce que on fait face à la violence qui est liée à la délinquance, au trafic de stupes, Et en même temps, on évite de tomber dans le tout sécuritaire, l'ultra-répression. Comment est-ce qu'on accède plutôt à la prévention, l'éducation, l'accompagnement des personnes, et tout en évitant aussi la stigmatisation. Et donc, avec moi, Pierre et Melouen, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, du coup moi je m'appelle Pierre, je travaille pour une association qui s'appelle Braise Insertion Sport, qui comme son nom l'indique fait de l'insertion par le sport à destination de différents publics, ça va de l'enfance à l'adulte bien tassé, on va dire ça comme ça, avec différents modes d'intervention. Ce qu'on dit souvent pour définir l'association, c'est qu'on est un peu à la croisée entre l'éducation spécialisée, l'éducation populaire et l'animation sportive. Et moi, j'interviens plus particulièrement... C'est bon, oui. J'interviens plus particulièrement sur le quartier de Villejean, sur une mission d'aller vers les publics jeunes qui sont présents sur les espaces publics, où l'idée c'est de pouvoir créer de la relation et dans un premier temps et dans un second temps essayer d'identifier les besoins et demandes que ces publics-là peuvent avoir, et notamment pas mal de besoins sur les questions d'insertion sociale ou d'accès aux droits, ce qui va être plus le sujet de cet après-midi.
Donc moi c'est Melouen, je fais partie du bureau de la Ligue des droits de l'homme, section du Pays de Rennes. Voilà, donc nous la Ligue des droits de l'homme, on est apartisans, mais on travaille beaucoup sur ces questions de société, sur les, un peu de tout, notamment sur l'angle juridique, sous l'angle juridique, et on a eu notamment l'occasion de faire des travaux de recherche sur les amendes forfaitaires délictuelles, notamment dans le cadre d'accompagnement à Paris, pas à Rennes encore. Voilà. Donc on a un peu d'informations et donc je vais plutôt axer ça sur un contexte juridique, quoi, me donner un peu des perspectives juridiques.
Voilà, et moi c'est Romane, je travaille à Street Press. On m'a demandé de venir ici notamment parce que j'ai écrit un article sur le quartier de Maurepas en fin d'année dernière. Et j'ai accepté de venir avec grand plaisir. Après, moi, ce qui m'intéressait surtout, et c'était un peu le sujet de l'atelier qui avait lieu avant, auquel personne n'est venu, sniff sniff, mais l'idée, c'était qu'on puisse partager en amont avec des personnes qui viennent de Maurepas ou d'ailleurs, d'autres quartiers, mais des situations concrètes, qu'on se donne de la force collectivement pour les porter aussi face à des personnes qui ont une expertise. C'est pas grave du tout que cet atelier n'ait pas eu lieu, mais du coup, on va pouvoir faire ça maintenant. En plus, on est en petit comité, c'est cool. Parce que moi, en fait, déjà, je viens de banlieue parisienne. Je suis blanche, je suis pas concernée. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu à payer encore d'amende forfaitaire délictuelle. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des retours aussi et des partages d'expériences. Donc du coup, on va essayer de parler sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions ou à raconter, partager une réflexion, raconter une expérience perso. Voilà, sentez-vous à l'aise en tout cas. Parce que je vais peut-être pas systématiquement aller vers vous pour venir vous chercher. Juste une mini-intro. Du coup, dans la grande machine répressive de l'État dans les quartiers populaires, il y a le contrôle d'identité et les amendes. Les amendes, ça a commencé à être créé en 1920 à peu près. Au début, ça concernait surtout la circulation routière, les petites infractions de type crachat, détritus laissés dans la rue. Et à partir de 2016, on a créé du coup l'amende forfaitaire délictuelle. Non plus pour qu'il n'y ait plus contraventionnel, mais délictuel, c'est-à-dire que ça vient sanctionner des délits, pour notamment l'usage de stupéfiants et, par exemple, la vente à la sauvette, ce genre de délits. Et donc, c'est devenu un outil privilégié par la police dans les quartiers populaires. Et ce qu'on voit, les chiffres sont parlants. Et après, je vais laisser Melouen parler. En 2019, on avait 57 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été attribuées. Ça représentait 8% de toutes les poursuites, tout mode confondu, en 2019 donc. Et en 2023, on est arrivé à 357 000 amendes forfaitaires délictuelles distribuées. Maintenant, c'est un tiers des poursuites. Je vais me tourner vers Mélouen pour nous expliquer un peu quelles sont les spécificités des amendes forfaitaires délictuelles et aussi qu'est-ce que ça dit plus généralement du climat politique et répressif dans lequel on est actuellement.
Merci. Alors, d'abord, ce qui est important de souligner, c'est que, donc, comme tu l'as dit, c'est délictuel. Donc, normalement, les délits, c'est du droit pénal. On passe devant un juge qui doit nous sanctionner. Ça fait partie des principes pour préserver les droits, ce qu'on appelle les droits de la défense, c'est-à-dire que pour que la personne qui est accusée puisse se défendre devant le juge et qu'il y ait une équité du procès. Or là, la police peut les donner de façon discrétionnaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus en fait ce contradictoire en face, la personne ne peut plus défendre, expliquer son point de vue. Donc ça c'est important à souligner parce que ça donne beaucoup de pouvoir à la police. Et un autre aspect que ça souligne aussi, c'est que toutes les volontés dès la Révolution, ça a été de faire appliquer la loi strictement et ne plus laisser de possibilités discrétionnaires aux personnes qui appliquent la loi pour que tout le monde soit traité de façon égale et équitable. Donc on disait à cette époque que le juge devait être la bouche de la loi, donc pas de surinterprétation. Or là, la police, en appliquant les textes de façon discrétionnaire, sans contrôle, en les interprétant comme elle veut et en les mettant, elle a beaucoup de marge de manœuvre. En fait, on sort de cette application stricte de la loi, et donc ça va complètement à l'encontre des principes mêmes du droit. Et donc la France a été condamnée pour ces faits par la Cour de cassation, qui est une des plus hautes juridictions, qui est la plus haute juridiction française, mais aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que ça va, en fait, ces pratiques vont à l'encontre des principes du droit, parce que ça devrait être le droit. Et du coup... non, c'est très... je les ai pas, mais je pourrais les... Ouais, c'est récent. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Elles se multiplient. Mais c'est pas. Il y a des condamnations qui ne concernent pas spécifiquement les amendes forfaitaires délictuelles, mais qui concernent aussi le non-respect des droits de la défense. Or, le principe même de l'amende forfaitaire délictuelle, c'est le non-respect de ces principes de la défense. Voilà. Donc, en fait, même si ça remonte pas jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a quand même une condamnation de ce non-respect. Voilà. Tu m'avais demandé aussi le contexte répressif.
Qu'est-ce que ça dit aussi du climat répressif actuel, des expérimentations dont on a parlé tout à l'heure?
Oui. Ce qu'il faut voir aussi avec l'amende forfaitaire délictuelle, c'était que c'était censé être une exception et non pas un principe. Et comme de nombreuses exceptions, ça devient le principe, comme l'ont montré les chiffres, tu dis c'est un tiers maintenant des condamnations. Cet effet de l'exception qui devient la règle, on peut le voir avec l'état d'urgence, je veux dire sécuritaire. Donc le droit, c'est rentré dans le droit commun, beaucoup de dispositions sont rentrées dans le droit commun, mais aussi avec les comparutions immédiates. Normalement, c'est un principe d'exception, c'est-à-dire qu'on est jugé directement. Donc pareil, il y a beaucoup de problèmes au niveau des droits de la défense, et maintenant ça devient un système qui est beaucoup mis en place, et encore une fois, qui est systématique et stigmatisante. C'est toujours les mêmes profils de personnes, les mêmes personnes, souvent les personnes racisées qui sont visées. Alors, on verra jamais nos politiques véreux en comparution immédiate, et un autre, quelque chose qui est pas forcément... moi, je le savais pas avant de le découvrir, ce qui paraît assez sensé. C'est l'emprisonnement, en fait. Dès que le principe de la prison a été posé en droit français, la base en droit, c'est que ça doit rester l'exception. La prison ne doit jamais être le principe. Or, aujourd'hui, on voit que c'est systématique. Donc, notamment avec la détention provisoire, où il n'y a même pas de jugement, mais la personne est déjà enfermée. Donc, il y a vraiment tout un contexte de répression, plein de choses où on nous a dit non, mais ce sera l'exception pour une toute petite partie de la population. Et en fait, ça devient systématique et stigmatisant.
Pour revenir du coup sur le sujet principal des amendes forfaitaires délictuelles, je suis allée me plonger dans le rapport de la Défenseure des droits, qui date de ce début d'année là. Et elle a travaillé avec une chercheuse qui a fait une recherche sur des jeunes qui sont dans le 12e arrondissement de Paris. Pour vous résumer, sur 19 jeunes,
qu'elle a pu interroger et dont elle a relevé le nombre, enfin les relevés d'amendes. Elle a constaté qu'en moyenne, chaque jeune avait une trentaine d'amendes. Ça se passe sur quelques années. Hein. Et les montants allaient de 2 000 à 32 000 euros. Il n'y en a pas qu'un seul qui a 32 000 euros. Il y en a 3 ou 4, je crois, parmi tous ces jeunes. Donc on assiste à une accumulation du coup des amendes forfaitaires délictuelles et en plus avec des montants qui sont vraiment énormes et qui créent des dettes de ouf sur l'avenir pour notamment ces jeunes, mais d'autres personnes, parce qu'on dit les jeunes, mais voilà, ça peut concerner aussi ça dépend qu'est-ce qu'on appelle des jeunes. Du coup, Pierre, toi qui es sur le terrain, est-ce que tu peux nous faire des retours un peu sur qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ces personnes d'accumuler les dettes comme ça, et pour les familles aussi?
Oui, ben comme ça, moi je vois surtout deux gros points. La question de la stigmatisation. Quel premier, parce que je n'ai pas les chiffres, moi, pour le coup, sous les yeux, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des amendes distribuées soient les mêmes d'un territoire à un autre. Donc, sur des quartiers prioritaires, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais là où les questions d'égalité sociale ne sont pas forcément au même niveau que partout, ça renvoie une fois de plus à cette question de stigmatisation, puisque comme vous avez pu le dire juste avant, effectivement, en général, c'est pas une amende, mais elles sont souvent accompagnées de plusieurs, même des fois dans une même journée ou dans une même après-midi. Moi, c'est des choses que j'ai pu constater, ce qu'on disait tout à l'heure en préparant, mais des jeunes qui se faisaient contrôler une fois, sur un contrôle et sur lesquels on pouvait leur mettre une amende et recevait au final plusieurs amendes pour la même après-midi sur lesquelles on était venu rajouter d'autres faits. Donc ça c'est le premier, et le deuxième, la deuxième grosse conséquence que je vois, forcément elle est économique, parce que pour des publics qui sont déjà dans des contextes économiques et sociaux qui sont fragiles, on vient rajouter du poids là-dessus. Et pour des plus jeunes, ça a pu aussi, c'est là où c'est un peu contradictoire, mais par rapport à tous les discours qu'il y a aujourd'hui, mais ça a pu encourager des entrées dans la délinquance et dans le trafic. Moi, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, mais j'avais un jeune que j'avais pas vu pendant une dizaine de jours puisque j'étais en congé. Et à mon retour de congé, il avait accumulé plus de 1500 euros d'amende. Donc c'était un jeune qui n'était pas dans le trafic avant mon départ en congé et qui est rentré après. L'idée, c'est pas de chercher à excuser l'entrée dans le trafic, mais d'essayer plutôt de comprendre un peu les mécanismes, sachant que ça vient se coupler avec ce que je disais tout à l'heure sur la question de la stigmatisation, où on sait que l'accès au travail, l'accès aux droits de manière générale n'est pas la même dans ces territoires-là. Donc ouais, c'est les deux grosses familles de conséquences que je vois, mais il y en a certainement plein d'autres, quoi.
Dans un article de Bastamag, notamment, une journaliste raconte aussi que, juste pour une conséquence très concrète, comme on accumule des dettes et qu'en fait le Trésor public va prélever l'argent si on a un compte, les jeunes décident de ne pas avoir de compte bancaire. Et ce qui les pousse aussi à continuer à soit faire des jobs où on est payé en cash, au black, ou alors éventuellement passer par d'autres plateformes pour avoir de l'argent, payer, etc. Évidemment, avoir de l'argent au black, je vous laisse imaginer un peu vers quoi ça conduit éventuellement comme taf aussi. Donc ouais, il y a plein de conséquences concrètes aussi contre lesquelles en fait ils essaient un peu de se débrouiller, mais qu'on voit pas forcément.
Et puis pas que pour les jeunes, pour le coup, pour les familles, enfin pour l'ensemble des familles aussi. Parce que moi, c'est l'exemple que je prenais aussi également tout à l'heure, mais moi j'ai pu accompagner aussi des mamans qui avaient leurs enfants majeurs, je précise, mais leurs enfants majeurs qui pouvaient être incarcérés et qui continuaient à accumuler des dettes, parce que bah, les amendes, quand tu ne les as pas payées, parce que tu ne peux pas les payer puisque tu es incarcéré, elles sont majorées, parce que les sommes que tu donnais tout à l'heure sont souvent liées aux majorations, en fait, à l'accumulation des amendes et à leur majoration. Et du coup, on se retrouve sur des sommes qui sont juste terribles. Et souvent, enfin moi en tout cas, ce que j'ai pu constater, je suis prioritairement quand même beaucoup plus avec un public autour de 16-25 ans, mais qui sont des âges aussi où, bah, où on entre dans l'âge adulte et on construit son insertion. Et quand tu dois démarrer ton insertion avec une dette autour de 10 000, 20 000, 30 000, moi j'ai vu des 50 000 aussi, forcément c'est plus complexe.
Oui, il faut, faut se dire que 2 000 euros, par exemple, ce n'est pas énorme comme amende forfaitaire, comme cumul d'amende forfaitaire délictuelle, pour vous donner un peu un aperçu des chiffres encore. Du coup, moi, je voulais parler un peu aussi de criminalisation des mineurs. En fait, il y a un enchaînement, une accumulation de lois récemment qui vient dire qu'en fait, les enfants n'ont plus d'excuses de minorité. Ça, c'est la loi Attal qui a été votée là en mars 2020. Adopté par le Sénat en mars 2025. Pour vous donner un peu une idée plus précise. Donc, on supprime l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans, récidivistes, ayant commis des crimes ou délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. On étend aussi la procédure de comparution immédiate aux mineurs d'au moins 16 ans, dès lors qu'ils encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement et sont déjà connus de la justice. Il y a la loi aussi Asile et Immigration qui, elle, vient bloquer l'accession à la nationalité pour tout mineur qui aurait commis deux délits, à partir de deux délits. Méloine et Pierre, en quoi, pour vous, cette réforme, elle est dangereuse et, enfin, ces réformes sont dangereuses et qu'est-ce qu'elle dit aussi de la perception qu'on a des enfants aujourd'hui ?
Encore une fois, à plusieurs niveaux, on a beaucoup parlé de la justice des mineurs dans l'actualité ces derniers temps. Entre le passage entre, enfin les questions, comment dire, entre deux oppositions, entre la prévention et la répression, par rapport à tout ce qu'on pouvait dire juste avant, effectivement. On a changé un peu de logiciel ces dernières décennies. Je pense notamment par rapport à l'ordonnance 45 qui était à la base quand même destinée à venir protéger des enfants suite à la guerre où il y avait énormément d'orphelins présents sur les espaces publics. Et où l'idée, c'était de partir plutôt du constat que ces enfants, s'ils se retrouvaient à faire des délits, c'est parce qu'ils cherchaient à tout prix à se nourrir. Alors effectivement, c'est ce qu'on entend aussi dans les médias, les jeunes de 2025 ne sont pas les jeunes de 1945. Pour autant, un adolescent ou un jeune adulte reste un adolescent et un jeune adulte dans sa construction. Et plus on va venir précariser, stigmatiser, mettre en difficulté en fait des parcours de jeunes qui sont en construction, plus on a de chances, de possibilités à ce que leur trajectoire se dégrade. Ce que je vois déjà en premier lieu. Et encore une fois, je trouve qu'on est un peu dans des contradictions. Enfin, moi, je suis salarié pour une association qui reçoit de l'argent public. Donc, du coup, ça veut dire que l'État, les collectivités mettent des moyens sur la table pour travailler les questions de jeunesse sur ces territoires. Et en même temps, on va avoir des lois qui vont venir être contre-productifs sur l'insertion de ces jeunes. C'est là où il y a une grosse opposition.
Je rejoins ce que tu dis. Ce qui est assez paradoxal, c'est justement cette volonté de toujours réprimer davantage et encore plus jeunes,
alors qu'on est dans un contexte où on voit bien que la répression, ça fonctionne pas. Un exemple, il y a plein d'études qui ont prouvé qu'aux États-Unis, ouais, il y a la peine de mort, mais en fait, il y a 10% de plus de criminalité qu'ailleurs, qu'en France, par exemple. Donc, on sait bien que ça fonctionne pas, mais on continue tête baissée à foncer dedans, ce qui est assez paradoxal. Et il y a cette volonté vraiment de normer les individus avec ce qui est inquiétant aussi, c'est que beaucoup de personnes se basent sur un droit à la sécurité, le droit de se sentir en sécurité. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, en fait, ce qu'on a consacré avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, c'est un droit à la sûreté. Et donc pas la protection de la population vis-à-vis de la population, mais la protection de la population vis-à-vis des institutions et de l'État. Et là, en fait, on change complètement de paradigme. On a l'impression qu'il faut protéger tout un chacun de l'autre, en fait. On rentre dans quelque chose où tout le monde devient un peu le danger. Et donc, il faut absolument encadrer les jeunes pour qu'ils soient... qui reste dans les clous, et c'est franchement inquiétant parce que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Enfin, on fait tous des erreurs, et vouloir à ce point aseptiser la société, c'est inquiétant. Moi, je trouve que c'est inquiétant.
Je disais juste que ça s'était accéléré depuis les émeutes suite à la mort de Naël. Et je connais pas trop l'historique de ces lois, mais c'est clairement pour dire aux jeunes des quartiers de fermer leur gueule et de pas se révolter contre la répression qui leur est faite aussi, quoi, et contre les institutions, la police, enfin bref, tout ça, quoi.
Toi, t'as assisté justement aux révoltes ici ?
Oui, un peu, mais je sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi qui as un angle juridique, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de l'histoire de ces lois-là, quoi.
Alors moi, je n'ai pas clairement l'historique. De ce que j'en ai comme connaissance, je pense qu'une première étape, ça a été aussi les révoltes de 2005, qu'il ne faut pas oublier. Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur et il y a eu une répression assez terrible et... une infantilisation d'une part et une déshumanisation de ce qui se passait et des révoltes, et en fait on ne s'est pas penché vraiment, en tout cas les pouvoirs publics ne sont pas penchés vraiment sur l'objet de la révolte, mais on dit que c'était pas acceptable et on commençait à réprimer. Et ensuite je pense que ce qui a influencé aussi, donc il y a la mort de Naël qui a provoqué les révoltes, mais avant ça en fait je pense qu'il y a qu'il y a aussi en fait un fort impact de l'état d'urgence sécuritaire où on a commencé à rentrer dans une logique pour déclarer l'état d'urgence, le président de la République a dit à l'Assemblée nationale nous sommes en guerre, et en fait ça crée forcément un paradigme, il y a forcément quelque chose qui se met en place, on est en guerre contre qui en fait, qu'est-ce qui se passe, et donc il y a une espèce de c'est ce que je disais, de scinder la société, de se faire tourner les uns contre les autres. Donc, en fait, il y a toute cette dérive sécuritaire qui commence progressivement et qui s'intensifie de plus en plus, effectivement, il y a une montée globale de l'extrême droite et de cette idée de droit à la sécurité, hein, partout. Et c'est vrai que ça s'accélère. En fait, chaque micro-événement va être pris comme une raison de plus de réprimer. Mais comme on peut penser pour les manifestations, à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, il y a plein de... c'est la stigmatisation tout le temps et cette idée d'ennemi intérieur qui est récurrent. Tu voulais poser une autre question ou réagir ? Okay. On a fait une petite pub Street Press, on a fait un documentaire sur les révoltes après la mort de Naël qui est sorti en fin d'année dernière, si ça vous intéresse, où on aborde justement... d'où ça vient, en fait, ces politiques répressives et quelles conséquences ça a et comment est-ce que le discours médiatique aussi a construit justement cette idée de guerre contre les personnes de banlieue, quoi. Je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir aussi. Sinon, moi, je continue dans mon couloir.
Peut-être que tu pensais l'aborder un peu plus tard, mais j'ai cru comprendre, j'ai pas étudié le sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a un glissement là avec le projet de Beauvau. Enfin,
sur le projet de... Oh là là, je maîtrise pas. Je vais avoir besoin d'aide. C'est au sujet de la... De, ouais, le projet Beauvau, quoi, sur le renouvellement de, du plan en police, où l'idée, c'est d'avoir maintenant les amendes forfaitaires délictuelles assurées par la police municipale. C'était une perspective, au lieu de la police nationale. Donc, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas? C'est évidemment une... On s'est compris.
Non, je ne suis pas spécialiste sur ce projet de loi-là, mais effectivement, après, je ne sais pas si on l'aborde après, mais quelle place ça donne aussi aux agents de force de l'ordre aussi qui... sont aujourd'hui très concentrés sur ces questions d'amende-là et du coup forcément beaucoup moins sur d'autres missions. Enfin, on a nos quartiers de manière générale qui explosent aussi sur des faits de violence aujourd'hui. Donc comment les agents de force de l'ordre aussi ont la possibilité de pouvoir intervenir sur ce qui est sur peut-être ce qui est peut-être plus prioritaire. Enfin voilà, ça vient aussi glisser aussi dans les modes d'intervention, sur là aussi où on place la sécurité, sur un basculement aussi entre autorité et autoritarisme, c'est-à-dire que toute la question de l'autorité aussi pour des plus jeunes aussi est un petit peu devient un peu galvaudée aussi. Après, je ne sais pas si tu...
Je crois qu'en termes d'armement aussi, on a laissé plus de pouvoir à la police municipale. Je n'ai pas d'autres infos parce que je ne me suis pas renseignée davantage. Mais ouais. Aussi, il va y avoir d'autres amendes forfaitaires délictuelles qui vont être mises en place, 4 exactement, à partir de là. En fait, c'était en avril que ça a été annoncé. Il y aura à Rennes notamment. Avec différentes amendes. Vente à la sauvette aggravée notamment, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ouais, il y a aggravée, ouais. Il y avait déjà vente à la sauvette, mais du coup là aggravée.
Bon, aggravée, je pense qu'ils vont partir sur l'idée de récidive, ou... ouais, c'est ça. Donc, comme tu l'as déjà fait. Et bah oui, c'est intéressant aussi parce que ça me fait penser ce que j'ai. Nicolas Sarkozy, en 2005, il s'est aussi dit il y a la police de proximité qui existe dans les quartiers. Et c'était un système qui était, bon, qu'on pouvait critiquer, mais qui permet d'éviter d'avoir l'opposition police-population qu'on a beaucoup actuellement et qui permettait de créer du lien, sûrement critiquable, améliorable, mais au moins ça existait. Et en fait, ça a été supprimé. Et donc là, on est vraiment tout le temps dans une opposition, en fait, de la population et notamment des quartiers qui sont très, très contrôlés. Et des forces de l'ordre. Et donc, en fait, donner cette possibilité à la police municipale, ça nourrit encore cette opposition. Alors que, par exemple, à Rennes, là, il y a des tentatives pour rapprocher la police municipale de la population. Ils se mettent dans des endroits, dans les quartiers, et on peut aller leur parler. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Ouais, les permanences. Voilà. Mais donc, du coup, on revient dans quelque chose de... Enfin, une opposition. Et puis, c'est une expression qui est assez utilisée dans les recherches, c'est le policier devient le juge de la rue. Donc, il y a aussi... voilà, il se met en travers, en fait, de la justice et des jeunes. Enfin, il y a tout un... Voilà, un blocage du fonctionnement de la justice, en fait. Et il prend beaucoup trop de pouvoir.
Oui, il n'y a pas de magistrat qui est informé. C'est-à-dire que c'est... La sanction pénale, elle vient directement sans remonter vers un juge. Et donc, la police a tout pouvoir de décision sur l'infraction.
Du coup, si je peux rebondir, ouais, sur un peu du coup les recours. Donc, on peut faire des recours quand même contre les amendes. Mais en fait, ce qui est compliqué, il y a plusieurs choses qui sont compliquées. D'abord, ça passe par un officier du ministère public. Donc, le ministère public, c'est le procureur. C'est lui qui gère la police, les enquêtes, etc. Et qui décide ou pas de poursuivre. Donc là, il a, en gros, il doit regarder l'amende et dire, bon, est-ce que je transmets au juge ou est-ce que la demande n'est pas bien formulée? C'est-à-dire elle respecte pas les conditions formelles, donc je la rejette. Sauf qu'en fait, une pratique qui a été constatée par la défenseure des droits notamment, c'est que ces officiers du ministère public se permettent de rejeter les demandes sur le fond, donc c'est-à-dire en disant que sur le fond, c'est enfin, voilà, la demande n'a pas lieu d'être, sans l'adresser au juge. Donc c'est une entrave en plus à l'accès au juge. Et ensuite, quand, si on arrive malgré tout à aller devant le juge, en fait ce qui se passe, c'est que la parole du policier, comme il est accrédité et il est censé avoir prêté serment, tout ça, donc sa parole fait foi et est supérieure à celle d'un citoyen. En fait, on part du principe que le policier ne ment pas. Donc pour montrer qu'il y a eu un abus, c'est extrêmement compliqué. Ça demande d'avoir des témoins, des images, c'est extrêmement compliqué à documenter. Et ensuite, il faut aussi savoir que l'amende peut être aggravée devant le tribunal. Et en fait, le tribunal ne peut qu'aggraver l'amende. C'est-à-dire que s'il se dit « bah là, non, je pense que l'amende était justifiée », il peut aussi rajouter en fait des frais supplémentaires. Donc autant dire que les recours, c'est vraiment compliqué. Sachant que dans tous les recours qui sont formulés, la défenseure des droits a relevé qu'il n'y en avait que 3% qui arrivaient finalement devant le juge. Voilà.
Pour poursuivre un peu sur ce sujet, dans l'article que j'avais rédigé sur Morpa, il a été beaucoup question de parler d'auto-organisation, d'émission des acteurs du milieu associatif ou des collectifs locaux et de comment il ou elle essaie de se débrouiller pour apporter de l'aide aux personnes du quartier. Et en fait, il était aussi question d'une fatigue un peu des acteurs du quartier qui essaient de se mobiliser avec pas beaucoup de moyens. Et du coup, je me tourne vers vous en tant que personne qui accompagne justement les familles ou les personnes qui ont ces amendes ou d'autres types de répression. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Et je pense notamment à la contestation ou d'autres méthodes.
Oui, moi j'avais pas forcément le chiffre des 3%, mais en tout cas le parti pris que j'avais choisi au démarrage de ma mission, quand j'ai commencé à traiter ces questions-là, c'était pas forcément d'aller chercher la contestation, parce que effectivement j'avais bien en tête que c'était parole d'agent contre jeunes ou contre habitants, donc c'était compliqué effectivement, sauf dans certains cas vraiment où l'exemple que je prenais tout à l'heure, mais une personne qui a été incarcérée et qui reçoit une amende, effectivement là on a de quoi justifier que c'est pas possible. Mais du coup, moi, j'avais plutôt travaillé sur la question de l'armise gracieuse et de l'échelonnement de dette. Parce que ce qui paraissait important, c'était, enfin, en tout cas ce que je relatais auprès des habitants, ce qui paraissait important, c'était de faire savoir qu'on avait bien en tête qu'on était endetté auprès du Trésor public, mais que pour autant, on n'était pas en capacité de pouvoir régler cette somme-là. Mais en tout cas, de faire un premier courrier pour éviter ce que je disais tout à l'heure, mais les questions de majoration, et puis que ça continue à grimper, ou bien même par rapport aux questions d'insertion dont on parlait tout à l'heure, sur les premiers salaires, qu'on se fasse amputer, parce que ça c'est aussi des choses qui ont évolué dans la loi, mais sur lesquelles maintenant il y a une possibilité d'amputer directement sur un salaire, d'avoir un prélèvement, ou sur des allocations sociales d'ailleurs. Et donc du coup, la démarche était plutôt celle-là, parce que la remise gracieuse est un droit aussi. Donc c'est aussi comment on s'approprie aussi les droits. Et si ça ne marchait pas dans un second temps, de faire une demande d'échelonnement.
Voilà. Et tu disais que ça marchait bien au début, et puis que là, un peu moins.
Oui, j'ai beaucoup moins de retours positifs aujourd'hui. Ouais. Ouais. Alors je sais pas du tout à quoi c'est lié. Peut-être que on s'est retrouvé à plusieurs professionnels à faire la même chose et que du coup le Trésor public a peut-être été inondé un petit peu de courriers. Je sais pas honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que sur certains dossiers on avait des réponses positives avec des annulations, sur d'autres des propositions d'échelonnement et sur d'autres un courrier comme s'il n'y avait pas eu de premier courrier. Quoi.
Et vous, Mélouane, vous faites des permanences, je crois, à la LDH ?
Ouais, mais alors là, je ne suis pas trop qualifiée. Enfin, on fait des permanences sur Rennes, mais c'est plutôt axé pour les droits, pour les titres de séjour pour la préfecture. Et sinon, c'est à Paris. Donc, moi, j'ai pas connaissance du terrain. Donc, je préfère pas. Mais il me semble que c'est ce qui est fait aussi au niveau de Paris, du 12e arrondissement. Voilà. Ouais, c'est les... Mais ça me fait penser aussi. Enfin, du coup, ça paraît aussi très discrétionnaire, en fait, ces choix-là du Trésor public, complètement discrétionnaire, sans motivation. Donc, encore une fois, c'est compliqué de comprendre la sanction quand il n'y a pas d'explication, pas de motivation. Enfin, on voit vraiment bien l'indistinction entre répression et prévention, éducation, explication. Là, il y a vraiment. En fait, ouais, ça fait pas sens, quoi, de réprimer sans expliquer, de.
Oui, puis je crois que c'est ce qu'on disait au tout début, mais je crois que le gros enjeu, dans un premier temps, c'est que l'opinion publique conscientise aussi qu'effectivement, il y a une tranche de la population, parce que c'est très quand même localisé, c'est ce qu'on pouvait dire, qui subit aussi ces amendes. Et donc, en premier temps, le conscientiser, et puis après... À Paris, il y a eu un petit peu des initiatives sur comment on peut venir chercher à contester. Mais effectivement, je pense que ça se fait pas dossier par dossier. Ça se fait à une échelle plus haute et puis sur un peu là le premier travail qu'on fait cet après-midi. Mais comment on vient essayer déjà de montrer collectivement qu'il y a des abus dans ce sens-là et de voir après comment peut y avoir de l'organisation de contestation, mais d'un point de vue plus large peut-être, quoi.
Ça me donne envie de rebondir aussi parce que pour réveiller aussi la conscience collective, je pense qu'il faut bien se dire, les quartiers sont un lieu, c'est un laboratoire d'expérimentation policier, vraiment. Ils sont pas conçus comme ça, mais ça nous vient de la politique postcoloniale. La police hérite de la police coloniale. Et donc on voit tout le temps en fait ce qui est expérimenté dans les quartiers. Ensuite, ça s'étend à l'ensemble de la société. Donc c'est déjà très grave que ça se passe dans les quartiers. Mais si les gens se sentent pas assez touchés, voilà. Enfin vraiment, ça nous concerne tous et toutes. C'est hyper important. Et donc l'exemple que je voulais prendre, c'était par exemple le LBD. Je sais pas si vous savez ce que c'est, lanceur de balles de défense, qui est une petite arme non létale, mais qui a fait de nombreux dégâts, qui crève des yeux. À chaque fois que c'est utilisé en manifestation quasiment. À l'origine, ça a été utilisé encore sous Sarkozy en 2005 pour les révoltes des quartiers. Et on a dit non mais ce sera que dans les quartiers pour éviter d'utiliser des armes létales. Et maintenant, ça a été systématisé dans les manifestations. Et en fait, ça s'étend. Cette répression qui est inhérente presque au quartier, en fait, elle s'étend progressivement à l'ensemble de la société aussi. Donc ça, faut en avoir conscience, quoi.
On se demandait si éventuellement il y avait des acteurs aussi du milieu associatif ici. Enfin, je sais qu'il y a Claire Détour, le GRPAS, Cœur Esquem, le Front de Mer. Enfin, c'est aussi, j'imagine, des acteurs qui sont impliqués aussi dans l'accompagnement des personnes par rapport à ces sujets-là. Je sais pas si.
Au niveau du Front de Mer, on s'en démunit. Alors après, déjà, il y a une... Désolée, c'est un peu... On a un 0,50 ETP au Front de Mer. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de force humaine. Mais au-delà de ça, c'est que oui, il y a un sentiment de frustration. Les familles avec qui on a pu échanger sur ce sujet-là. Alors on oriente beaucoup vers la Défenseure des droits. On a eu un échange préparatoire aussi dans le cadre de cette journée. Alors elle pouvait pas se déplacer aujourd'hui, pas Claire Redon, mais Clémence, de représentante Pays de la Loire et Bretagne. Voilà, mais juste pour dire qu'il y a ce sentiment de, ouais, à la fois d'impunité et en même temps ouais de frustration, quoi. Et puis de cette escalade. Et on a vu aussi des témoignages de jeunes qui en fait partent à l'étranger. On a une collègue notamment à Roubaix. Qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, qui est aussi président d'Attaque, OMRAP et tout, et elle disait, moi, on reçoit des jeunes, ils se barrent, quoi. Ils s'en vont. Donc, il n'y a pas de compte bancaire et départ à l'étranger pour fuir. Et des familles complètement dévastées, quoi.
Ouais, je crois qu'il y avait une intervention à côté.
Alors, pardon, excuse-moi, je suis navrée. Pardon, je suis dans la vraie. Pardon, café à volonté.
Bien, bonjour. Moi, je suis député de la circonscription, en fait, et donc où figure le quartier de Maurepas, enfin tout le nord de Rennes, mais aussi beaucoup de communes rurales. Et je voulais venir aujourd'hui parce que je trouve que le sujet est très intéressant, très important, et puis pas très connu du grand public. Mais plutôt dans une posture d'écoute plutôt que d'intervention politique un peu classique. Juste deux mots peut-être sur quand on évoquait tout à l'heure les initiatives de Beauvau sur la sécurité publique et les pouvoirs possiblement accrus de la police municipale. C'est vraiment un transfert de compétences quasiment de la compétence sécurité de l'État vers les collectivités territoriales, qui à mon avis masque aussi une volonté de transférer des charges et donc des moyens nouveaux à débloquer pour les collectivités sans nécessairement que ce soit accompagné de dotations, etc. Donc dans un mouvement de rétrécissement du service public en fait, et avec une grande inquiétude parce que c'est vraiment un domaine régalien, et donc si demain c'est les collectivités qui, en fonction de leur couleur politique, mettent en œuvre les politiques de sécurité publique et plus de tranquillité, comme c'est aujourd'hui le cas, on peut s'attendre effectivement à des choses vraiment dommageables. Et sur les AFD, je me faisais la réflexion en écoutant que ce serait peut-être un sujet. Moi, je partagerais ça dans le groupe politique avec lequel je siège à l'Assemblée, qui est le groupe écologiste et social, de peut-être solliciter dans les prochains mois une commission d'enquête. Je dis ça parce que je trouve que s'il y a bien un sujet qui mériterait qu'il y ait une enquête, c'est celui-là. Parce que c'est pas très connu du grand public. J'ai rencontré le procureur dans un échange de courtoisie de début de mandat qui ignorait cette pratique. Procureur général, enfin c'est... Comment ?
C'est totalement
décoloré. Ah non, vraiment pas, parce que c'est le pouvoir judiciaire justement qui n'est pas saisi de cette question-là, qui relève du pouvoir de police. Et c'est tout le sujet. Et d'ailleurs, lui était très attentif aux propos qui étaient liens, parce qu'il dit, tout à fait, plutôt dans l'idée que chacun doit faire son travail, quoi, et que c'est pas à la police de devenir magistrat. Donc voilà, une commission d'enquête sur le sujet, je trouve que ce serait intéressant parce que ça permettrait d'objectiver la situation et de pouvoir ensuite tirer des conclusions qui, pourquoi pas, permettraient une proposition de loi qui organiserait différemment les choses. Parce que c'est vrai que, et je terminerai par là, j'étais à la jeunesse avant à la métropole, élu à la jeunesse à la métropole, et effectivement, la mission locale nous faisait état de plein de jeunes qui étaient plus capables de s'insérer parce que un salaire, ça voulait dire un retrait, un prélèvement automatique sur le salaire, et qu'ils ne voyaient plus l'intérêt de travailler. Quoi.
Voilà. La commission d'enquête, ça donne quoi ?
Alors, la commission d'enquête, ça donne aux parlementaires qui la préside la possibilité de convoquer n'importe qui, d'obliger les gens à venir. On n'a pas le droit de mentir devant une commission d'enquête, c'est un délit. On est d'accord, mais c'est précisément parce qu'il est suspecté de mensonge qu'il est aujourd'hui en fragilité avec cette commission d'enquête. Globalement, ça permettrait, je dis pas que c'est la lune, mais permettrait d'en faire un sujet public et de pouvoir auditionner l'ensemble des corps professionnels, des associations, qui sont intéressés par cette question, et derrière de tirer des conclusions qui permettent de mieux réguler, voire d'annuler ce type de pratique.
Pour ajouter, il y avait quand même il y avait aussi un rapport qui avait été rendu par la défenseure des droits sur la question. Je ne sais plus si c'est à la demande du gouvernement, mais il me semble que c'était le cas. Elle a dit clairement qu'il fallait supprimer les amendes forfaitaires. Oui, en fait, tous les acteurs sont d'accord, et ça a été dit de nombreuses fois. Mais j'espère que via la commission d'enquête, il y aura plus d'écoute. Oui, non, mais si, elle a déjà.
Oui, et pour compléter, il y a donc du coup le rapport commandé par Darmanin qui a été publié en mai 2025, qui dit justement, qui demande de marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l'attente de l'expertise du dispositif. Et Jérôme Durin aussi, qui est socialiste Saône-et-Loire, sénateur,
qui a déposé en décembre 2024 une proposition de loi visant à réformer la procédure d'amende forfaitaire délictuelle. Donc il y a quand même quelques personnalités politiques qui se sont emparées du sujet aussi.
Et Retailleau qui rajoute 4 nouvelles amendes forfaitaires délictuelles.
Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une nécessité à effectivement faire connaître cette problématique-là. Pas que au niveau des décideurs aussi, mais ne serait-ce aussi que au niveau des habitants qui peuvent être victimes aussi, ne serait-ce que sur les questions de recours, sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai la chance d'être sur un territoire sur lequel je suis bien implanté, sur lequel le bouche à oreille fonctionne plutôt bien, mais il y a effectivement énormément de jeunes ou de moins jeunes qui peuvent se retrouver endettés liés à ces amendes et qui ne vont pas aller chercher le recours, parce que c'est toujours la question aussi de l'accès au droit, en fait, dont on parlait tout à l'heure. C'est que plus on est dans une situation vulnérable, moins on se laisse la possibilité de pouvoir accéder aux droits pour plein de raisons différentes d'ailleurs, mais on sait très bien que dans les quartiers, c'est contrairement à ce qui peut être dit parfois, c'est la population qui, de manière générale, n'accède le moins aux droits qu'ils peuvent avoir, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu-là, je pense. Ouais.
Et puis informer la société civile, c'est aussi permettre d'avoir des images, d'avoir des témoignages, et c'est super important. Par exemple, dans les violences policières, ce qui a beaucoup marché et ce qui permet en fait d'avoir des condamnations, c'est aussi les images qui sont filmées à ces moments-là. On peut se dire que ça peut déjà avoir une valeur de preuve, en fait, si vous voyez quelqu'un se faire contrôler, d'avoir des images, voilà. Bon, je ne sais pas sur quoi ça pourrait aboutir, mais c'est toujours être vigilant les uns, les unes. Vis-à-vis des autres, c'est hyper important, en fait.
Je vous remercie de repréciser l'importance de la solidarité de la communauté élargie et la co-responsabilité que nous avons de pouvoir aussi veiller au respect des droits des uns et des unes et des autres. Je m'excuse, je suis arrivée un peu tard au cours de cet échange. Je ne sais pas si vous avez évoqué quelles seraient les potentielles raisons pour en fait avoir droit à une amende. Voilà. Enfin, quels sont les principaux motifs, en tout cas, qui donnent lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est une question à moitié. C'est que, en fait, je ne sais pas ce qui a été fait au niveau du préjudice, en fait, qu'on porte à une personne qui, en fait, se retrouve, à être mise en situation de délit, concrètement. Et, en fait, à quel point, en fait, c'est... ces amendes poursuivent et sont présentes sur les casiers des personnes qui en écopent.
Sur les motifs, peut-être, Melouane, tu peux répondre.
Alors, les motifs, il y a par exemple les incivilités. Les incivilités, ça peut être cracher dans la rue. Ça peut être des déchets par terre. Il y a aussi beaucoup d'appels qui sont passés par... qu'ils appellent le voisinage, on a du mal à savoir ce que c'est, enfin les riverains, tout le monde a... Ouais. Les nuisances sonores, et en fait, il n'y a pas de... Il y a cette espèce de... Ils arrivent, ils verbalisent parce qu'ils ont eu l'appel, il n'y a aussi pas d'approfondissement de la situation. Donc ça peut être, oui, voilà, le niveau du bruit, mais même en fait la présence dans l'espace public qui peut déranger certaines personnes. Par exemple, dans les halls d'immeubles, les personnes vont partir du principe que, en fait, ça leur cause un trouble, ou des policiers qui considèrent également que un groupe de jeunes qui n'a pas encore commis, donc ça c'est dans le rapport de la défenseur des droits, un groupe de jeunes qui n'a pas encore commis d'infraction, délit, qui n'a causé aucun problème, peut être un potentiel problème, et donc en fait ils font des amendes forfaitaires délictuelles, mais préventives. ce qui est complètement insensé, parce que vraiment, c'est une condamnation pénale, donc c'est du répressif. La prévention, ce serait d'aller leur demander de ne pas faire trop de bruit, par exemple. Voilà, donc on a complètement un changement de paradigme, parce qu'en fait, ils sont pas magistrats, donc en fait, ils savent pas. Voilà, donc ça peut être vraiment un peu pour tout et n'importe quoi. Il y a des témoignages de personnes où il y avait simplement des déchets à leurs pieds, on leur a demandé de les ramasser, et en fait, ils ont reçu des amendes parce qu'il y avait des déchets à leurs pieds, quoi. Alors que c'était même pas eux et qu'ils ont ramassé, quoi. Enfin, vraiment, c'est...
Il y a aussi un article de Bastamac qui raconte qu'il y a certains policiers qui attribuent des amendes forfaitaires, effectivement, de manière préventive, parce qu'en fait, ils connaissent tout, toutes les personnes du quartier. Ils connaissent leur adresse, ils connaissent leurs parents. Donc, en fait, ils vont distribuer une ou deux amendes comme ça parce qu'ils pensent avoir vu telle personne à tel endroit, alors que pas du tout. Et donc, du coup, les jeunes, enfin, il y a un jeune notamment qui raconte, je suis allée voir le policier, je dis, mais deux jours après, j'ai trouvé une amende dans ma boîte aux lettres, je savais même pas pourquoi, et j'étais même pas là, en fait, à cet endroit-là, pourquoi tu m'as mis ça et tout. Et l'autre lui a dit, bah, la prochaine fois, ce sera pas toi, ce sera un autre. Enfin, c'est vraiment du tri social dans l'espace public et on fait régner la peur pour les empêcher de sortir aussi. Enfin, en fait, le vagabondage, c'était un délit depuis le 18e ou 19e siècle. Enfin, c'est rien que le fait d'être dans l'espace public, d'être une personne racisée, d'être jeune, ou enfin de cumuler en fait un certain nombre de stigmatisations. Bah, en fait, on se fait sanctionner alors que parfois, bah ouais, on n'a juste rien fait en fait.
Juste, on a effectivement de toute façon un vrai problème avec la question de l'appropriation de l'espace public en France. Et là, ça vient aussi renforcer les questions rapport police jeune, enfin, dans le sens où il existe des frustrations chez les forces de l'ordre dans leur façon d'intervenir et dans ce qu'on peut leur demander aussi, dans les commandes qu'ils peuvent avoir. Et notamment, et du coup, il y a un amalgame qui peut être fait très régulièrement pour des jeunes qui sont présents sur l'espace public, qui peuvent être à côté ou à proximité, des fois, d'un autre jeune qui peut, lui, s'adonner au trafic. Et quand les forces de l'ordre vont arriver pour essayer d'attraper... une personne qui est en train de faire du trafic, par exemple, qui va s'en aller parce que, en général, les forces de l'ordre sont vues et entendues bien longtemps en amont, ça va être tous les autres jeunes qui étaient sur place qui vont prendre. Voire même, moi je l'ai constaté, j'avais pu le faire remonter, mais des fois même avec des provocations, en fait, de la part des forces de l'ordre vis-à-vis de groupes de jeunes pour que. Il y ait un délit qui soit commis ou même s'il n'y a pas de délit. Moi, j'ai vu régulièrement passer, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, enfin comment c'est formulé, mais échange de liquidité. Voilà. Alors moi, j'ai des jeunes, je sais qu'ils sont dans le trafic. Il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais pour autant, il y en a, je sais pertinemment qu'ils ne le sont pas. Et quand eux se retrouvent avec ces motifs-là, bah, ça interroge effectivement sur, comment c'est jugé, comment c'est interprété.
Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces points que vous éclaircissez vachement, vachement bien. Pour moi, il y a aussi quand même un souci, c'est que on a tendance à pas relier ce qui est un réel système qui en effet le racisme structurel, quoi. C'est que ces jeunes-là, là on parle du cas spécifique des amendes forfaitaires délictuelles délivrées par la police, qui sera délivrée par la police municipale, et donc du rapport jeune police ou d'occupation d'espace ou le fait de commettre des actes qui sont décrétés comme étant des incivilités. J'aimerais quand même qu'on puisse aussi, et ça je pense que ça explique aussi notamment l'absence aussi des personnes qui en tout cas en sont les premières victimes dans ce genre de réunion, dans ce genre de discussion, c'est que ce rapport inégal, il se traduit chez ces personnes, mais pas seulement quand en fait elles sont en train d'occuper l'espace public, il se traduit quand elles sont quand elles prennent le métro, il se traduit quand elles prennent le train, il se traduit quand elles sortent du supermarché, elle se traduit en fait à bien nombre de moments au cours d'une journée. Et ce que moi, en tout cas, quand j'ai commencé un petit peu, parce que je savais qu'il y avait, ce sujet-là qui tombait sur la table, à lire dessus, je me suis aussi dit, peut-être que on prend pas assez conscience à quel point ces jeunes sont au premier front, en fait, de discrimination qui sont incessantes. Et ça explique aussi potentiellement déjà la difficulté de pouvoir en fait arriver sur un espace et s'en justifier d'en arriver à là. Et puis deuxièmement aussi, pour avoir discuté, ça fait aussi partie de mon environnement, des personnes qui se prennent des prunes pour un oui et un non. C'est dire que ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas assez intégré à quel point les prunes, les sanctions financières font partie du quotidien. Et c'est pas que par la police. Et ça, je pense aussi, il y a quelque chose qui est à mettre en lien, c'est que il y a une partie de la population, notamment dans les plus jeunes. Moi, quand j'ai, à titre personnel, subi, des actes qui pourraient clairement être considérés comme relevant de discrimination et de racisme sous latent, ça m'a foutu, on appelle ça le seum, vraiment. Après, je suis une femme. Après, j'ai une bonne répartie. Après, je connais aussi mes droits, mais ça n'a pas empêché. Et voilà, je me mets à la place de certains, certaines, pour qui c'est pas le cas et pour qui en fait c'est journalier et que on ait même du mal à reconnaître à quel point c'est journalier et à quel point ça se traduit partout, quoi.
Est-ce que d'autres personnes veulent partager?
Je voulais juste ajouter une info. Tout à l'heure, il faut aussi savoir que il y a un système qui a été mis en place. Il y a des quotas d'amendes à donner dans la police. Enfin, il y a des objectifs qui peuvent donner lieu à des primes. Voilà. Donc ça peut fortement inciter. Voilà. Et merci pour la réflexion.
Il y a un autre point qu'on voulait aborder ensemble aussi. Qui est la question des parents aussi. C'est-à-dire que on assiste à une criminalisation des mineurs, mais aussi à une responsabilisation des parents. La loi maintenant impute aux parents des responsabilités sur le comportement de leurs enfants. Et donc la loi de Gabriel Attal sur la délinquance des mineurs dont je vous parlais tout à l'heure prévoit maintenant des sanctions pour les parents, travail d'intérêt général, amende, comme si on n'en avait pas assez, et remboursement par exemple des dommages causés par l'enfant dans un maximum de 7 500 €.
Non, c'était juste pour réagir par rapport à de l'expérience de ce que j'ai appris en étant au front de mer, en y travaillant encore pour encore un an. C'est, vous en avez parlé, on en a parlé même avant aussi avec Lauriane, avec les invités de la première table ronde. C'est ce truc de, je trouve, ce mécanisme de désenfantisation ou adultification, on dirait en anglais, de traiter les enfants en fait comme étant des adultes, mais même plus que des adultes, comme étant des menaces. On les traite comme des menaces en fait. Et c'est ce qui fait que quand, suite aux attentats en 2015-2016, il y avait un enfant qui avait réagi, il n'était pas resté sage, il a fini au commissariat. Il avait 5 ans, il s'appelait Ahmed. Et je pense qu'il y a un peu ça, genre c'est ce qui se passe pour les corps jeunes des quartiers populaires, les corps racisés. Et à l'inverse, et c'est là où je veux en venir aussi, c'est aussi l'infantilisation des adultes. comment, je me souviens, tout à l'heure, vous parliez de 2005, je me souviens, j'ai un peu des images, je pense que c'est un mécanisme qui se met souvent en place, c'est comment on dit, mais c'est la faute des parents, c'est le manque d'éducation, c'est ce truc un peu de droite peut-être, de voir les choses comme étant la faute des individus, mais c'est ce truc vraiment colonial et raciste de dire qu'en fait, on n'est pas assez, on n'est pas assez intégré, on connaît pas, on sait pas comment se comporter, on n'est pas civilisé. Et j'ai l'impression que ça participe un peu à ça, en fait, cette nouvelle loi Attal. Ça participe un peu à ça de vouloir, au final, dans les deux cas, que ce soit traiter les gosses comme des adultes ou traiter les adultes comme des gosses, c'est juste ne pas voir l'être humain derrière. Et juste, voilà, rappeler ça, et que du coup, ça participe à ce que tu disais très bien tout à l'heure, Lauriane. J'ai pensé à la charge raciale, en fait, en permanence, et les plus dominés parmi les racisés, on s'en prenne plein la gueule tout le temps, effectivement. Tout le temps. Et c'est un truc qu'on doit effectivement questionner collectivement. Mais je voulais juste rappeler ça, les deux notions de désenfantisation, infantilisation. Je le vois vraiment beaucoup dans les rapports qu'il y a dernièrement. Les moments du front de mer ont osé avoir l'audace et le culot de prendre genre l'opportunité de parler de comment elles vivaient, ce qui se passait à l'école. Et il y a eu un peu un backlash. Tout de suite, les gens l'ont très mal pris. Et tout de suite, il y a eu un truc de fragilité blanche, de fragilité institutionnelle, de dire quoi, mais non, mais n'importe quoi, on n'est pas raciste et tout. Non, mais on parle de fonctionnement, de comportement et de situation. On n'est même pas en train de faire de l'attaque ad hominem en plus. Et encore, on pourrait pour le coup peut-être selon les cas, mais je sais pas. Il y a un truc à la fois comment y a des mécanismes un peu d'épuisement comme ça, de déshumanisation d'un côté, et en même temps, il y a une lenteur institutionnelle et une fragilité en face qui est pas évidente à gérer, je trouve. Mais c'est pas forcément désespéré, je pense. Il y a des espaces qui se créent là et c'est cool. Et j'avais une question, genre, je pensais à un truc pas juridique. Je sais pas si c'était intéressant l'idée, enfin, d'action collective. Je sais pas à quel point ça peut marcher. Enfin, je me souviens qu'il y avait eu 6 tours. C'est pas la même chose, mais les Chibani qui avaient été souverts de discrimination à la SNCF ont finalement gagné leur procès après des dizaines d'années d'attente. Je ne sais pas à quel point, en dehors des commissions parlementaires, en dehors des discussions qu'on est là, ça peut être une piste, même si trouver la justice dans un système judiciaire imparfait, c'est limité, mais voilà, je pose ça là. Et j'ai fini parce que j'ai soif.
Oui, je pense que l'action collective peut être une façon d'agir en justice, oui. Et ce qui marche bien, mais c'est ce que tu avais dit, Pierre, aussi, c'est de montrer que c'est tout un système, en fait, et que c'est un fonctionnement qui ne marche pas. Pour ça, il faut documenter. Il faut réussir à documenter, il faut faire remonter. Mais ce serait très intéressant comme piste à suivre. Ouais.
Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole ? Là, en fait, ça fait une heure qu'on parle. Je me disais qu'on pouvait se laisser une demi-heure jusqu'à 19h pour échanger, peut-être, si ça vous dit. La dernière question qu'on voulait soulever ensemble... la responsabilité des institutions, enfin, et que peuvent faire les institutions, la municipalité, comme privilégier par exemple la prévention et l'éducation, augmenter les subventions ou en tout cas ne pas les couper. Enfin voilà, il y a plusieurs pistes. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre nous collectivement par rapport à ce sujet ? Et en tout cas, le rapport de la défenseure des droits le pointe bien en disant que les amendes forfaitaires délictuelles, elles légitiment ces pratiques au nom de la protection de la tranquillité des riverains, catégorie dont elles excluent de fait les jeunes ciblés. C'est ce que dit la défenseure des droits, c'est ce que disent beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs du milieu associatif, de collectifs. D'hommes et de femmes politiques comme on l'a soulevé tout à l'heure et du coup bah, nous qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on verrait se mettre en place.
Non, je pense que ce qui est important, mais ce qui a été dit, mais c'est de, avant d'attendre aussi quelque chose de l'institution, c'est peut-être aussi déjà de chacun sa place, essayer de voir ce qu'on peut faire. Enfin, une après-midi comme celle-là, c'est déjà une première brique. Moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'il y a souvent aussi en tout cas à l'échelle locale, mais deux mondes qui se connectent que trop peu, c'est les professionnels associatifs dont je fais partie et des bénévoles ou militants associatifs. Et je me dis que déjà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose à faire aussi sur la question de la mobilisation aussi des personnes, des premiers concernés aussi. Et comment, peut-être chacun à notre niveau, on travaille un peu une stratégie pour développer des ambassadeurs. Enfin, un mot un peu moche, mais pour reproduire peut-être ces instances comme celle-ci, mais de manière, enfin voilà, peut-être plus régulière sur l'ensemble des quartiers et comment. Comment d'une petite graine, bah il y a peut-être quelque chose d'être un peu plus costaud qui se crée. Enfin, moi, c'est la réflexion que je me fais.
Moi, une réflexion que je me faisais aussi, c'était ok, c'est bien de dire qu'il faut observer, filmer quand ça se passe, pouvoir témoigner, mais encore faut-il savoir quoi observer. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on se forme collectivement en fait pour savoir ce qu'il faut observer dans ces cas-là, ce qu'il faut noter. Pour qu'on devienne tous des citoyens et citoyennes vigilants, vigilantes, qui ont en fait les ressources pour justement noter les dysfonctionnements.
Vous avez ce genre de guide à la LDH ?
Sur les amendes forfaitaires délictuelles ? Non, pas encore. En devenir. Sur d'autres choses, oui. Mais ça peut se faire complètement. Mais en fait, il y a déjà des choses, par exemple... rien que les palpations, les fouilles, il y a plein de choses qui sont illégales et qu'on ne sait pas et qu'on peut déjà constater en fait. Rien que voilà, voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais, ce serait bien qu'on se forme.
Alors, je veux pas plomber l'ambiance, mais est-ce que vous avez l'impression que du fait que la répression elle soit de plus en plus forte, parce que du coup là on parlait de mobilisation collective, etc., et ça peut être super, mais en même temps la répression elle est de plus en plus forte, même en manif, la censure aussi elle est de plus en plus forte, et en fait comment on peut essayer de contrer ça, puisque je pense que notre moyen un peu le plus primaire donc de se révolter, enfin, c'est même un droit, il est un peu entravé quoi.
Alors je trouve ça très réaliste. Ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est très réaliste. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir et en fait que justement, c'est un peu ce que disait Pierre, mais on a des espaces comme ça en fait qui se constituent. Et cette répression, elle est dure à vivre seule, mais on peut être tous ensemble aussi pour y faire face. Et je pense que se rassembler, c'est hyper important. Après, ouais, ça va être une période compliquée, je pense. Je pense que c'est un peu tous et toutes.
Raison de plus en fait.
Ouais, c'est ça, raison de plus.
Raison de plus, c'est-à-dire que plus le conflit est important, plus aussi les choses sont cachées aussi du grand public, et du coup, plus il y a de l'importance aussi à trouver des petites bulles de liberté, d'espace pour ne serait-ce que de faire remonter. Alors, des fois, ça peut amener de la frustration parce que du coup, c'est des étapes qui sont nécessaires, je pense. C'est d'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, mais d'abord, on conscientise, on échange aussi chacun par rapport à ses réalités, et puis à chacun ce qui nous est remonté aussi. Et en fait, après, on arrive à définir des mécanismes qui vont se retrouver, en fait, parce que là, on a fait un focus sur la question des amendes, mais... Là, sur la question des inégalités, plus globalement dans les quartiers populaires, je pense qu'on pourrait avoir de nombreux sujets. Et en fait, on se rend compte que quel que soit le sujet qu'on prend, en fait, il y a des mécanismes qui reviennent en fait tout le temps. Tu parlais de la question du racisme, mais effectivement, c'est un mécanisme qui revient souvent. Pour autant, c'est pas forcément celui qu'on aborde toujours en premier. Donc enfin, je pense qu'il y a déjà ce travail collectif à faire.
Pour compléter aussi, je pense qu'il y a un truc hyper important aussi, c'est pas oublier qu'on a du pouvoir, parce qu'en fait, dans la répression, on veut beaucoup nous faire oublier qu'on a ce pouvoir dans la société civile, mais on en a un véritable de se mobiliser Ok, on n'est pas toujours écouté, mais il nous reste des choses. Et je trouve que on l'a vu un peu avec Freedom Flotilla qui est parti en Palestine. Ça a redonné un souffle, en fait. Et on s'est dit, mais en fait, il y a encore des choses à faire. Et on peut encore se mobiliser, on peut encore faire des actions. On verra où ça mène, mais en fait, il ne faut rien lâcher, je pense. Après, c'est juste ma pensée. Et puis, il faut se soutenir, quoi. Voilà, vraiment se soutenir. Et la santé mentale, c'est important. Je le rappelle, très important.
Oui, en fait, je voulais dire aussi que j'ai l'impression que ça serait peut-être bien aussi qu'on porte davantage plainte, même si on sait que ça va être classé sans suite. Je donne un exemple. On a eu quatre mères qui sont venues au front de mer, orientées par le relais, suite à des violences policières qu'avaient vécu leurs enfants de 12 et 13 ans dans le quartier de Morpa. Ils sont allés jouer au City Stade de la Bélangerie, et quand ils sont arrivés, il y avait des jeunes un peu plus grands qui ont couru. Il y avait la police, ils ont eu peur, ils ont couru, réflexe normal. Et en fait, ils se sont fait interpeller, et il y a eu des gifles, il y a eu des palpations des parties génitales, moi j'appelle ça agression sexuelle, et des insultes, des injures, et les gamins ont été emmenés, les enfants ont été emmenés au commissariat, il y a eu tout un problème après d'information des parents, sachant que les mères, pour certaines, ne parlaient pas bien français. Donc je vous passe les détails, mais ça a été un parcours du combattant. Alors le relais, a vraiment fait un travail super avec les enfants. On s'est réparti un peu les tâches. Eux s'occupaient des enfants et nous on s'occupait des mères. C'était la première fois qu'on collaborait comme ça. C'était spontané et en même temps on n'était pas super outillés, mais on a fait ce qu'on a pu. Et il a fallu convaincre entre guillemets des droits en disant bah là on peut déposer plainte. Voilà, ça a pris du temps. Elles ont eu besoin de temps pour réfléchir. Certaines avaient envie, d'autres pas. Et puis au final, avec le recul, certaines ont décidé, 3 sur 4, de déposer plainte. Et en fait, moi, j'ai joué ma casquette la d'élu. Ça a été utile à cet endroit-là, puisque j'ai découvert entre-temps l'article 40 de la collectivité de procédure pénale, oui. Donc voilà, j'ai mis 6 ans de mandat. Je suis vraiment sincèrement désolée pour comprendre que en fait, quand un élu ou un agent de la fonction publique était au courant d'un délit, il devait, enfin obligatoirement, normalement, alerter le procureur. Donc je fais des courriers maintenant. Et je suis allée accompagner d'abord les maires au commissariat central. On n'a pas été reçus. Et j'ai pourtant sorti l'étiquette élu. Ils ont refusé de prendre la plainte. Et c'était déjà très impressionnant. Il y avait vraiment l'intimidation en rentrant dans le commissariat avec un changement de ton à l'accueil. Et 4 policiers sont arrivés. Très impressionnant physiquement. Et puis ils nous ont fait attendre très 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 longtemps pour qu'enfin un policier vienne s'adresser au maire. Et leur dise, il nous a dit, là il est 17h, donc c'est trop tard pour déposer plainte. Parce que si on s'y met, ça va durer jusqu'à pas d'heure. Donc, en fait, c'est non. Mais par contre, on peut vous proposer un rendez-vous. Donc, déjà, il a fallu encaisser cette nouvelle. Moi, je me sentais aussi démunie, parce qu'en fait, je voyais bien que rien à faire. Et puis, ce sentiment d'avoir plein de gens autour de nous, en fait, et des regards et tout ça, donc c'était assez intimidant. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Et certaines ont dit, OK, on prend rendez-vous. Et donc là, ça a été un casse-tête. Parce qu'il a sorti son grand agenda papier, très vintage, en disant, là, je peux pas, là, c'est compliqué. Et c'est des mères qui, certaines travaillent, ont des horaires atypiques. Donc ça a été vraiment une triple violence. Et on est sorti bredouille, au final. On est sorti bredouille avec un sentiment d'intimidation, de violence institutionnelle. Alors, on est sorti bredouille, mais certaines ont quand même, il y en a 2 qui ont pris des rendez-vous. Et en sortant, on a rappelé, on avait un contact avocat, et je lui ai dit, faut déposer plainte, écrire au procureur directement. Mais c'était important pour elles d'aller au commissariat. Mais c'était coûteux. Mais ça s'est fait. Et donc, elles ont écrit. Et on les a accompagnées, le front de mer, dans l'écriture de cette plainte. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire moi-même au procureur. Donc pour l'instant, on n'a pas de retour. Mais ça a été aussi important de dire, il y aura peut-être et certainement un classement sans suite. Mais pour la dignité de vos enfants, de se dire que vous êtes battus et que vous avez été jusque-là, c'est aussi important, quoi, pour soi-même. Et elles sont très fières de l'avoir fait. Donc c'est déjà ça. Et je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu des chiffres de la police sur le nombre de plaintes qui ont été déposées concernant les discriminations. Il y a eu 70 saisines sur le territoire, notre territoire, en 2024. Et il y a seulement 20% recevables, entre guillemets, traités. Et en fait, ce que ça veut dire par là, c'est que l'argument de base, c'est de dire il n'y a pas de discrimination, on a très peu sur notre territoire, parce que les chiffres sont bas. Donc c'est sûr que 70 saisines, c'est pas beaucoup. Et donc ce discours, cette petite musique qui se répète, il faut la contrer aussi par le fait de déposer plainte, parce que ça grossit les chiffres et ça montre bien qu'il y a une réalité, quoi. Parce que l'argument de l'opposition, c'est de vraiment dire il n'y a pas de problème puisque les gens ne déposent pas plainte.
Juste pour rebondir, quelques infos, les plaintes, ils sont obligés de les prendre tout le temps. Et 24 heures sur 24. Voilà, il n'y a pas de trop tard, c'est 24 heures sur 24 qu'ils doivent prendre les plaintes. Ouais, voilà. Bah ouais, je comprends bien. Mais ça veut dire que c'est un nouveau manquement à dénoncer, ça peut être dénoncé aussi, ce traitement. Super. Voilà. Et sinon, oui. Et oui, porter plainte, c'est important, sachant que les classements sans suite décidés par le procureur peuvent être... En fait, vous pouvez vous porter partie civile, ce qui est très lourd, et là, du coup, l'affaire est obligée d'être traitée en correctionnel. Voilà. Donc même s'il y a un classement sans suite du procureur, vous pouvez dire « je me constitue partie civile », et là, ils sont obligés de poursuivre devant le tribunal.
Ouais, et puis systématiser le fait de se faire appuyer aussi par un avocat, parce que la machine judiciaire, elle est complexe. Et moi, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait quand je suis arrivé sur le quartier de Villejean, c'est que je me suis constitué un réseau en fait d'avocats. Et il y en a quand même pas mal qui sont assez militants pour le coup, et qui répondent des fois juste à des questions en fait, juste pour de l'information. Et ouais, faut systématiser ça, parce que sinon on se fait vite renvoyer. Le droit n'est pas toujours respecté, quoi.
Et pour ça, d'ailleurs, si vous avez des problèmes et que vous avez des questions juridiques, je ne sais pas à quel point ils sont disponibles, mais vous pouvez toujours tenter de contacter le syndicat des avocats de France. Voilà, ils ne vous suivront pas gratuitement, je ne pense pas, tout le temps, mais ils peuvent donner des pistes, des conseils, vous orienter, voilà. Donc, pas hésiter, et c'est vraiment des militants chouettes.
Ou se rapprocher des associations ou collectifs aussi pour avoir accès à ces avocats-là, parce qu'il y a des legal teams partout en France aussi. Je vais être accusée de prêcher pour ma paroisse, mais il y a les médias aussi. Je comprends tout à fait l'énorme défiance qu'il peut y avoir à l'égard des médias dans le traitement qui est fait, notamment des quartiers populaires. Mais tout un tas d'autres sujets aussi, même les manifestations, parfois, ou les rassemblements, on n'arrive pas bien à les traiter médiatiquement. Je pense qu'il y a des médias qui essaient, en tout cas, de faire plus attention. Et je pense qu'il y a un autre volet qui serait peut-être à creuser, qui est plutôt comment utiliser les médias, mais en sachant comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils travaillent. Pour justement pas se laisser berner ou qu'on nous fasse dire ce qu'on veut pas dire, voilà. Ou qu'on résume nos propos. Je pense qu'il y a peut-être un travail aussi collectivement et de manière militante à faire sur comment est-ce qu'on utilise les médias à son profit.
Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions, intervenir? Sinon, on va clôturer. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour d'être resté, d'avoir donné de la force à nos intervenants et d'avoir participé. Et merci surtout à vous pour les enseignements et les témoignages et l'expertise. C'est un début. Je suis un petit peu contente quand même qu'il y ait un député qui a pointé son doigt, parce qu'on va lui mettre un petit coup de pression sur le fait de faire une commission d'enquête. Mais je pense qu'il a bien compris le message en sortant. Ouais. Tristan Lahaye. Ouais. De gauche. Oui. Non, pas France Insoumise. Je crois que c'est Génération.s, je crois. Ouais. Merci beaucoup. C'est un début. On continue je pense plutôt à la rentrée dans un autre quartier, avec un temps comme ça organisé par d'autres orgas. Et puis, donnons-nous de la force, ne restons pas isolés. Et juste déjà, passons une bonne fin de journée et la lutte continue.